Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et oui, l'after qui continue jusqu'à 1h du matin ici, en direct du Qatar. Messieurs, dames, vous le savez, tous les soirs c'est comme ça sur RMC, on analyse les résultats du jour dans l'after et puis de minuit à 1h. Nico Vidas, Thibaut Jean-Grande sont là avec vous, c'est la libre antenne de l'after avec vous en studio. Hein, si vous voulez assister à l'after, vous envoyez un petit mail à standard@rmc.fr pour venir en studio de minuit à 1h. Pour l'instant, on a avec nous dans l'after Lionel Charbonnier qui est toujours là. Bonsoir Lionel.
Bonsoir à tous.
Et Daniel Riolo qui nous rejoint. Salut Daniel.
Salut les amis.
On recommence.
Salut les amis.
Bravo.
Ah, salut Dan. Je t'ai entendu de loin.
L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. On aura quelques invités également ce soir, des supporters de l'équipe de France qui nous rejoindront un peu plus tard, puisque vous le savez, le studio de l'after est ouvert à tout le monde ici à Doha. Au programme jusqu'à minuit, l'analyse des matchs du jour. On va revenir rapido sur l'Argentine maintenant, mais on aura Georges Quirino un peu plus tard pour nous dire le soulagement argentin, et puis évidemment l'équipe de France analysée par l'after dans quelques minutes. On entendra quelques réactions. On parlera aussi de la Tunisie qui va pas fort. Oussem Moussaïef est en impression. Mais pour l'instant, Oussem Moussaïef tient sa magnifique perche à. Je sais pas comment on dit, perche à.
À TikTok.
À TikTok.
TikTok.
Perche à TikTok. Puisque Oussem, l'after est sur TikTok.
En direct sur le TikTok de RMC Sport. Vous pourrez voir le studio depuis Doha et Gilbert et Daniel qui sont à votre disposition.
On est également sur Twitch.
On est partout.
On est partout.
C'est l'émission qui est partout.
Tu les as suivis sur le terrain de golf ?
Alors, j'ai pas suivi parce que, en fait, Daniel n'y va pas, tout simplement.
Et Gilbert, tu vas.
Oh, Gilbert,
Philippe. Bah, le matin, il faut bien s'occuper, Lionel. Il faut bien qu'on fasse un peu de sport le matin, tu vois.
Bah, nous travaillons toute la journée.
On profite un peu des installations.
Qu'est-ce que tu parles là-dessus ? Nous travaillons toute la journée.
Beaucoup.
Et effectivement, on a droit à un jour de repos par semaine, qui nous permet de pratiquer les activités de notre choix.
Et par contre, alors voilà,
non,
Lionel,
moi je les pratique tous les matins, il fait. Faut le dire, on a quand même le droit de le matin, il n'y a pas de honte à se détendre
par contre, Lionel,
sur des journées de 10 heures qu'on enquille quand
Gilbert
même.
Est fit puisqu'il fait les allers-retours studio-hôtel à vélo, et c'est pas à côté.
Je vais trouver un vélo.
Ça à vélo.
Bravo.
Ouais, ouais.
Ah, bravo.
Ça à vélo.
Mais il en a qu'un.
Tu l'as piqué à Qatari.
J'ai bénéficié d'un prêt de Cyprien que je remercie.
Bravo.
Ouais, ouais. Bon, après les Qataris sont pas trop habitués au vélo, hein. Ça l'avait fait un peu paniquer. Ils sont plus habitués au 4x4, mais
j'ai vu pas mal de trottinettes aussi, moi.
Oui, trottinettes. En fait, dès qu'il y a un effort physique, t'as l'impression que c'est un peu dur. Mais bon, pourquoi pas.
Il y a du paddle là-bas, non ?
Oh, ah oui, il y a énormément de paddle. Ça joue au paddle, ça joue au tennis, ça joue au golf. Il y a tout, quoi, toutes les activités. Ouais. 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 Le matin, on a un peu de temps. Non, tennis, oui, mais pas paddle.
Bon, l'Argentine, Daniel, ils avaient quand même la.
Ah, on commence par l'Argentine, donc.
Bah, vite fait, quoi.
On y reviendra après, quand même.
Oui, bien sûr. Là, on fait quelques minutes comme ça.
Bah, écoute, tu disais tout à l'heure.
On aura Georges Quirino après 23h.
Tu disais tout à l'heure, en parlant de Georges, qu'il allait nous donner un petit peu le sentiment en Argentine et que probablement ça allait tourner autour du soulagement. Oui, je pense que c'est principalement ça qu'il faut retenir. C'est le soulagement. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre, malheureusement, à retenir. À part croire que l'équipe prenne confiance, qu'elle se mette en route, qu'elle monte en intensité, déjà ça fait. Il faut croire à beaucoup de choses pour imaginer, comme l'espèrent les Argentins, que ça aille très loin l'aventure. Parce que pour l'instant, ce qu'ils proposent, moi, je trouve que c'est en deçà de ce qu'on a vu dans beaucoup, chez beaucoup d'autres sélections quand même. Là, ils ont gagné ce soir deux beaux buts, deux belles frappes. Après, pour le reste, ça pousse un peu le ballon quand même.
Contre l'Arabie Saoudite, ils proposaient quelque chose d'autre quand même. Il y avait des actions, il y a eu des buts refusés,
ils se sont un peu liquéfiés aussi en deuxième mi-temps. Ils sont pas très constants, ils jouent par séquence. Moi, je ne trouve pas que pour l'instant, ça a l'allure d'une équipe qui peut aller loin. Mais encore une fois, on en a tellement vu d'autres dans les Coupes du Monde, hein, des sélections qui démarrent mal et qui arrivent en huitième, se retrouvent, se libèrent d'un certain poids, d'une certaine pression, que j'ai vraiment pas envie de les enterrer. Surtout pas ce soir. Mais ce qui va prévaloir, je pense, c'est vraiment le soulagement. C'est genre, ouf, on n'est pas dehors déjà.
Déjà aujourd'hui,
certains commençaient à flipper et à dire ils peuvent être dehors ce soir. Et c'est vrai qu'ils pouvaient être dehors ce soir en cas de cata. Là maintenant, il faut enchaîner contre la Pologne et finir premier de ce groupe. Et c'est possible. Voilà.
Ouais. Et déjà aujourd'hui, ne serait-ce que sur le but, hein, on les a vus déjà dès que Messi les a libérés. C'était un autre. Ils arrivaient plus à courir. On aurait dit qu'ils avaient les jambes coupées par l'enjeu, par toute cette pression, cette chape de plomb qu'il y avait au-dessus d'eux. Mais quand même.
On arrive, Julien.
On en est. Je regardais trois buts. C'est trois buts pour l'Argentine, c'est ça? Ouais. Deux buts de Messi, une passe D. Hein. Il court pas, mais putain, il est déterminant. Excusez-moi.
Mais de toute façon, l'idée est pas qu'il court. Hein. L'idée est que ce soit les autres qui courent et que lui, quand il a une opportunité, l'idée c'est vraiment on pousse le ballon parce que je répète, je trouve pas qu'il y ait vraiment de jeu qui se développe du côté argentin. Poussons le ballon jusqu'au 30 mètres et essayons de trouver Messi.
Petit point rugby, c'est fini entre le Stade Français et Toulon. C'est reparti en deuxième période. Excuse-moi,
il y a tellement de choses en même temps. 38 minutes. Oui, et peut-être que Gonzalo Quesada, le coach argentin, la pose, c'est enquérir du score de sa sélection. Il suit évidemment l'entraîneur du Stade Français. Son équipe mène, en tout cas, au début de seconde période, 9-0. Trois pénalités de Joris Segond, l'ouvreur. On joue depuis 3 minutes en seconde période. 9-0 pour le Stade Français face à Toulon.
À tout à l'heure. Pablo est là, supporter du foot sud-américain, et Pablo qui parfois nous parle de la Bolivie, si j'ai bonne mémoire, ou d'autres. Salut Pablo.
Salut
Pablo.
Ça va et toi?
Ça va. Ouais. Moi, j'ai écouté le match entre une radio argentine et une radio mexicaine. Je peux vous dire que j'ai reçu de tous les côtés toute la soirée. Là.
Comment t'as fait?
Une mi-temps, quoi.
Et alors, ils étaient comment? Raconte un peu.
C'était tendu, hein. Effectivement, côté argentin, c'est un énorme soulagement. Et moi, je suis d'accord avec Daniel sur le fait qu'il n'y ait pas grand-chose niveau jeu. Mais il y a toujours, je pense, c'est un peu comme ce qui s'est passé au PSG, hein, où on a une espèce d'attente qu'il y a un moment où ça se déclenche, on va appuyer sur un bouton, comme s'il y a quelque chose de mystique qui allait arriver.
Ouais, mais là, le pire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rythme, quoi. Ça joue lentement.
Moi, je pense que c'est dans la préparation, de toute façon, ils étaient tellement obnubilés par cette série de matchs sans défaite que je sais pas pourquoi ils sont obnubilés sur ça, qu'ils se sont fait des matchs amicaux faciles. Ils ont pas été mis dans la difficulté depuis très longtemps. Le match contre le Brésil qui avait à rejouer, comme par hasard, il n'y a pas eu à le rejouer. Quand ils ont été joués en éliminatoire en Équateur, ils se sont bien fait bouger. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'au final, quand ils se retrouvent là, ça s'est vu contre l'Arabie Saoudite, quoi, contre une équipe qui en veut vraiment et qui a quelque chose à jouer. Au final, le fait d'être mené, ils n'avaient jamais trop connu ça et les réactions étaient difficiles derrière. Et donc ils se retrouvent là au pied du mur à être soulagés d'avoir gagné 2-0 contre un Mexique qui était vraiment pas génial non plus, quoi.
Moi, je trouve que le Mexique est très décevant, hein, les gars. Enfin, je sais pas, on parle beaucoup de l'Argentine, de Messi, évidemment. Enfin, le Mexique, on a vu des Mexiques bien meilleurs dans les Coupes du Monde récentes.
Oui, une équipe hyper vaillante qui a essayé de mettre beaucoup de pressing, ne serait-ce que lors de la dernière Coupe du Monde, hein, quand ils jouent contre l'Allemagne, par exemple. Là, ils étaient un peu attentifs, il n'y avait pas beaucoup de jus dans cette équipe, mais grosso modo, c'était un match assez terne en termes de rythme et d'intensité.
Daniel. Ils ont pressé au départ,
parce que les Argentins, ils étaient tellement terrorisés que.
Ce genre de match, ça peut suffire. Hein. Je dis, il suffit qu'un coup de pied arrêté, le Mexique met le premier but, et je pense que c'est l'Argentine qui s'écroule derrière. Hein.
En première mi-temps, tu sais, ce pressing. Et rappelle-toi, Gilbert, je le disais, le souci qu'il y avait, c'est qu'il se faisait un pressing, mais c'était un pressing un contre un. Et physiquement, c'est très, très, très compliqué à supporter tout le match, et même 45 minutes. Et donc, ça les a cuits complets parce qu'ils n'ont pas réussi à faire à faire le break, enfin, en tout cas, à marquer dans ces moments-là. Mais je ne sais même pas si le gardien argentin a fait un arrêt ce soir. Il n'y a rien.
Final, ils ne sont pas créés. Ah, si, l'arrêt sur magnifique. Carré sur coup franc qu'il a bloqué.
Ouais. Ah oui,
quand il s'est envolé.
Il est beau parce qu'il l'a arrêté.
Il réclame à chaque fois.
Qu'il l'a bloqué, mais bon.
Le plus bel arrêt de la Coupe du Monde, sans problème.
Oui, mais grosso modo, il y a pas d'occasion pour les Mexicains. Ils ont pratiquement rien créé, les Mexicains. Donc bon.
Non, très décevant et d'habitude même.
Ce coup franc-là, s'il rentre, je pense que l'Argentine est capable de s'écrouler derrière.
Parce que tu veux dire que là,
ou alors ça les libère encore plus.
ils sont pas en mesure pour l'instant de gérer la charge émotionnelle. Et effectivement, peut-être que cette victoire va les libérer. Peut-être que ces victoires, c'est une hypothèse, que ça les libère un peu. Moi, je vois là, à la fin, ils sont en train de faire la fête avec les supporters. On est au deuxième match. La joie de Messi quand il marque, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ce visage-là chez Messi. Donc, c'est dire s'il avait.
On verra que là, il va voir les supporters. Hein. On l'a vu, on vient de voir l'image là.
Évidemment. Non mais ça, c'est le scandale.
Il va voir les supporters quand il marque, s'il était devant eux, et il va.
Ça c'est le scandale permanent.
Avec eux à la fin.
C'est le scandale permanent au PSG, mais il y a plein de supporters qui acceptent ça, et la direction du club accepte ça. Bon bah écoute, si les gens acceptent ça, si les supporters ne disent rien à ça, moi je trouve que c'est un scandale absolu. Donc là, visiblement.
Moi je pense qu'il va finir par aller les voir les supporters du PSG, tu vas voir.
Bah ouais, bah, il va finir.
Mais quand il aura marqué en finale de la Ligue des Champions.
Finir, mais c'est déjà, incompréhensible. Mais c'est déjà incompréhensible qu'il le fasse. C'est déjà pas normal.
Mais je pense qu'il était déçu, Daniel, de ses propres prestations et qu'il était pas fier.
Quand tu joues en sélection nationale, il n'y a personne qui le siffle. Là-dessus. Ce qui est arrivé au Parc des Princes.
Il n'a pas été sifflé. C'est pas lui qui était sifflé. Et tout le monde lui a expliqué mille fois et les supporters l'ont dit. Ce n'est pas lui qui a été sifflé. C'est pas lui qui a été sifflé. Non. La politique du club.
Merci Pablo.
Rien à voir.
Merci. Je peux juste rajouter un petit truc.
Oui, vas-y.
Je voulais dire, moi, l'Argentine, c'est un des maillots qui me fait le plus vibrer pour des raisons. Je suis prêt à venir un jour débattre avec vous de foot identitaire et de double nationalité. Mais j'en ai un peu marre de la hype autour de Messi, de comme quoi le foot doit une Coupe du Monde à Messi. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et s'il la gagne pas, bah, ça restera quand même un de mes joueurs préférés, voire probablement mon meilleur joueur préféré et un super beau perdant.
Encore heureux qu'il y ait des très très grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Hein. Ça arrive. Hein.
Ça fait une semaine que j'entends partout que tout le monde a envie de voir Messi gagner, qu'il dit en conférence de presse qu'il est content que tous les pays le soutiennent. Et ça,
Cristiano Ronaldo, alors il la gagnera probablement pas non plus. Bon, et alors Platini n'a pas gagné la Coupe du Monde. Et alors
cette dernière semaine, je pense qu'on en parlait beaucoup parce que beaucoup pensaient que, et à juste titre, parce qu'en voyant cette équipe d'Argentine contre l'Arabie Saoudite et encore en première mi-temps, tu te disais, mais ils vont passer à travers, ils vont même pas sortir des poules. Et donc, parler de Messi en se disant, mais si l'Argentine de Messi ne sort pas des poules, je pense que c'est pour ça qu'on en parlait et qu'on disait, mais c'était inadmissible. Pour un joueur de ce standing de ne pas sortir des poules avec cette équipe d'Argentine. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Aujourd'hui, c'est différent. L'Argentine respire. L'Argentine a pris une bonne bouffée d'air. Messi aussi. Et je pense qu'on va commencer à voir une autre Argentine comme on a commencé à la voir en deuxième mi-temps.
C'était pas non merci plus, Pablo, bonne soirée. À très bientôt pour reparler de foot sud-américain. Tiens, puis tu parlais du maillot de l'Argentine. Vous savez que pendant cette Coupe du Monde dans l'After, on vous offre des maillots de foot grâce à Foot Corner. Ce soir, justement, on offre un maillot de l'Argentine. Donc, si vous voulez gagner ce maillot, vous envoyez foot par SMS au 732-16. Foot par SMS au 732-16. Bonne chance.
D'ailleurs, dans un instant, on n'a pas fait de podium des plus beaux maillots de la Coupe du Monde. Ah, moi, j'aimerais bien donner mon avis là-dessus.
Bon, on peut le faire dans quelques minutes.
Faisons-le dans quelques minutes. C'est très important, le textile.
Tout à fait, je suis d'accord. L'équipe de France, évidemment, est au programme là pendant une heure à venir. Évaluation de l'after, les avis de Lionel, de Kevin qui nous rejoindra tout à l'heure, de Daniel, les vôtres au 32-16. Et puis quelques réactions après la belle victoire des Bleus face au Danemark. 2-1, c'est tout de suite dans l'after.
Foot, intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Jusqu'à 1h du matin, l'after est là, bien sûr. Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là. Il est minuit 19 ici dans notre studio à Doha. Il est 22h19, Aris Orangis, messieurs, dames, sachez-le. Donc en France. Et l'équipe de France est au programme maintenant. Les gars, on va pas faire 3 points. Hein. Le match était il y a maintenant plus de 2 heures. Enfin, tout de même, on a vu aujourd'hui, Daniel, une belle équipe de France.
Ah, plus que ça, je vais même te dire, et tiens-toi bien, je l'ai dit à la fin de la première période, donc je me suis un petit peu avancé quand même, sans attendre la fin du match, depuis, en compétition. Hein. Mais écoute, je crois que depuis 2006, et le match contre le Brésil, l'équipe de France ne m'a pas autant, autant fait vibrer, autant séduite. Ouais, bien sûr. En termes de jeu. En termes de jeu, de ce que tu proposes sur le terrain, de l'enthousiasme que tu mets, de la façon de jouer, parce qu'il y a aussi une façon de jouer qui, moi, me plaît plus. Parce que moi, la victoire où t'attends, par exemple, en 2018, il n'y a pas la moitié d'un match, je dis bien la moitié d'un match, qui m'a plu autant que celui de ce soir. parce que j'aime pas quand t'attends, quand tu joues simplement en essayant de jouer la transition ou en contre, où les blocs étaient trop bas, ça me plaisait pas. Là, la prestation de ce soir, je la trouve parfaitement aboutie. Le match nul, si Mbappé avait pas mis le deuxième but, franchement, ça m'aurait semblé assez injuste. Clairement, en termes de prestations footballistiques, depuis 2006, je suis pas sûr d'avoir vu un match aussi abouti des Bleus. Voilà.
Lionel, t'es d'accord ?
Ouais, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Enfin, pas pour, pas seulement pour ce soir, mais ça fait deux matchs où la France maîtrise. Ça fait longtemps que j'avais pas vu la France maîtriser comme ça. Et non seulement ils maîtrisent, mais ils maîtrisent en faisant du jeu. Comme exactement. Disait Daniel, je suis d'accord. Et maîtriser en faisant le jeu,
franchement,
c'est.
Franchement, on était plus habitué à ça. Hein. On avait oublié que ça pouvait. On avait oublié des Bleus où ça court, où ça monte sur les côtés, où ça presse, où il y a du mouvement, où tu vois au milieu de terrain un mec, en l'occurrence Griezmann. Mais j'imagine qu'on
Griezmann
va beaucoup en parler,
qui distribue
du jeu à droite, à gauche, des attaquants qui tentent des dribbles, et là il y en avait des deux côtés, Dembélé et Mbappé. Non, je suis désolé, une équipe de France aussi attractive, moi j'avais quasiment.
Complémentarité.
Depuis la création de l'After, tout simplement.
Ouais, je
moi,
pas
dans l'After, un soir. Aussi satisfait de ce que je vois des Bleus en termes de jeu, ça ne m'était pas arrivé, tout simplement.
Après, voilà. Il y avait, c'est une autre image de l'équipe de France qui, toi, dans ta conception de jeu, te plaît plus. Mais quand la France jouait en bloc bas et puis allait faire des contre-attaques pour devenir championne du monde comme elle l'a fait et comme elle a pris, par exemple, l'Argentine et tout ça, moi, ça me plaît aussi. Je dis pas que avec
le match contre l'Argentine, il est effectivement très intéressant parce que le scénar est un peu fou, il y a beaucoup de buts.
C'était maîtrisé.
Et tout ça. Mais
ouais.
En termes de
Pour moi, c'était maîtrisé.
Je trouve pas que ce soit
c'était
maîtrisé.
C'était le plan de jeu et ça a été bien fait.
Ouais,
mais c'était,
oui,
c'est
ouais.
Dans un autre
oui,
registre. Mais heureusement, là où je suis d'accord avec toi, heureusement qu'on n'a pas ce style de jeu aujourd'hui avec l'effectif que Didier a, avec tous ses offensifs, avec tout ça. Donc là, non, c'est cohérent par rapport aux personnes à tous ces joueurs qui composent cette sélection.
Non, parce que contre l'Argentine, le match auquel tu fais référence, ça se joue en fait sur la vitesse de Mbappé. C'est je balance une sacoche devant et puis Mbappé fait la différence. Alors oui, ça donnait un match qui était un peu spectaculaire.
Et un tir improbable de Pavard.
Mais je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que ce match-là était maîtrisé. Mais bref, peu importe. Moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Je comprends ce qu'ils font. Je vois des joueurs tous bons. Même ceux qui sont un peu en dedans, j'arrive à comprendre pourquoi ils sont un peu en dedans, parce que j'imagine qu'ils sont là pour un peu regarder, compenser, boucher des trous. C'est vrai que Tchouaméni ne fait pas grand chose dans la participation au jeu, il prend pas de risques sur les passes.
Mais là-dessus, je suis pas d'accord, tu vois.
Mais
là-dessus,
mais au fond,
j'ai entendu ça aussi et moi, je suis pas d'accord. Parce
c'est-à-dire.
Il a fait beaucoup de jeux sans ballon. Il a
empêché. C'est ce que j'étais en train
beaucoup
de dire, Lionel.
Non, mais quand je.
C'est ce que j'étais en train de dire. Tu me coupes, tu me sautes dessus. C'est ce que j'étais en train de dire.
Non mais
c'est quand même incroyable. Tu me laisses pas parler.
Attends, t'énerves pas.
Bah non, c'est lui. Ouais, il me dit. Je suis pas d'accord. Bah tu m'as pas laissé finir la phrase et j'allais dire ça justement.
Alors,
j'allais dire que justement.
Tu me sautes dessus et j'ai pas fini. Je suis pas d'accord.
Lui quand même.
C'est lui qui a raison. C'est toi qui l'as sauté dessus. Laisse le finir.
Mais je suis en train de dire, je ne suis pas d'accord avec certaines analyses qu'il y a eu avant que tu parles. Parce que.
Quelles étaient les analyses, Lionel ?
Eh ben, que Tchouaméni est passé complètement à travers, qu'il n'a pas été bon et tout ça.
Non,
et ça, là-dessus,
d'accord.
Je ne suis pas d'accord. C'est pas ce que dit Daniel, hein. Je suis d'accord avec toi, Daniel.
Vous engueulez quand vous êtes d'accord, c'est quand même magique.
Il m'engueule là-dessus, mais je suis d'accord avec Daniel parce que j'ai entendu des mecs de renom qui disaient que Tchouaméni avait
des
été
mecs
nul.
De renom. J'adore l'expression,
oui.
Lionel, des mecs de renom.
Ça m'embête d'entendre ça parce que t'es pas obligé de faire du jeu, de créer le jeu et tout ça. Quand t'es numéro 6, faire des courses sans ballon pour empêcher l'adversaire de jouer, être destructeur, même si tu touches pas la balle, mais empêcher ton adversaire de jouer sur ses attaquants et tout ça, et ben le mec, effectivement, tu ne le vois pas, mais par contre, il fait un travail extraordinaire.
Tous les mecs sont pas obligés de faire rêver, quoi. Et là, c'est vrai que
Tchouaméni
fait pas rêver, mais je comprends son utilité de ce que font les Bleus. Comme je vois que Rabiot a fait encore une demi-heure de malade incroyable, et puis qu'après, effectivement, sur la deuxième mi-temps, il est toujours un petit peu moins bien, mais enfin c'est par rapport à ce qu'il propose, c'est presque normal parce qu'il est tellement haut au début qu'il redescend, mais enfin il fait encore partie des meilleurs ce soir. Et après ça, une fois que t'as dit ça, tous les autres, bon ben Griezmann superstar.
T'as Mbappé qui sauve son match avec ses deux buts. Heureusement qu'il est là.
Il sauve pas son match, il est tout le temps bon. Mbappé, c'est pas lui qui devient le danger.
Sa première mi-temps, pour moi, j'ai pas aimé sa première mi-temps.
Le danger vient par lui. À chaque fois, il monopolise l'attention. Il accélère, oui, mais il est quand même bon.
Tiens, alors,
tu sais qu'à un moment ou un autre, il va se passer quelque chose.
Ah, mais d'accord, mais en première mi-temps, pour moi, il est passé à côté.
Faisons dossier par dossier. On va ouvrir le dossier Griezmann dans quelques instants.
Mais il passe pas à côté, mais 4 buts par match, le mec.
Mais écoutez, justement, Didier Deschamps qui parle de.
Il a mis 4 buts dans la première mi-temps, si tu racontes.
Qui parle de Mbappé. Donc Deschamps sur Mbappé tout de suite.
Kylian, c'est un joueur hors norme. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences, même si les adversaires prennent des dispositions où il a été. Pas mal maltraité, mais le fait d'avoir d'autres joueurs autour de lui aussi qui amènent du danger, lui permettent d'être un peu plus libéré. Puis au-delà de ses énormes qualités au-dessus, bien sûr, hors normes, il s'inscrit dans un collectif, il fait beaucoup d'efforts, il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France a et aura besoin d'un très bon Kylian.
Non, mais je suis d'accord avec Deschamps. Moi,
alors, si on veut chipoter... il a une belle passe en retrait de Dembélé en première mi-temps, il la met au-dessus.
Arrêtez de chipoter, c'est
et on peut chipoter la petite où il peut la donner à Thuram à la fin.
Arrêtez de chipoter, on peut pas tout. Les gars, mais arrêtez
on peut
de chipoter.
Un peu.
Mais non, tu peux pas chipoter parce
et que
c'est.
Si j'ai envie de chipoter.
Parce que si tu chipotes, ça veut dire qu'il y a 5-0 à tous les matchs. Le football, c'est pas 5-0 tous les matchs.
Et pourquoi pas?
T'es obligé de rater des trucs de temps en temps.
Mais non, Daniel.
Ah non, mais arrêtez, vous pouvez pas chipoter
on
tout le temps.
On parle des meilleurs joueurs du monde.
Mais non, mais ça rime à rien.
Chipotons.
Non, tu joues pas tout seul sur le terrain. T'es pas au parc avec ton fils là.
Lionel, tu sais quoi, tu
parles
quoi?
Non,
Mbappé, peut-être en première mi-temps, il est un peu moins bien, mais les mecs se fatiguent. Et après, il profite de la fatigue, il se crée les espaces et il défonce tout le monde. Arrêtez, Lionel.
Ouais, mais alors, t'arrives à chipoter avec Neymar, mais tu chipotes pas avec Mbappé.
Mais quand j'ai chipoté avec Neymar? De quoi? Par rapport à quoi?
Neymar, il te fait la même là avec Thuram, il la donne pas, tu vas chipoter, hein. Je te connais.
Mais ça dépend le contexte du match.
S'il met un triplé avant, je pense qu'il lui dit rien.
Mais pas du tout. Attends, mais non, mais me fais pas.
Je pense qu'il a été beaucoup plus influent, comme tu le disais, parce que c'est un mec pour marquer des buts dans le jeu et notamment sur le score et sur le dénouement, beaucoup plus influent en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps.
Ah ouais, les mecs se fatiguent. Il leur met tellement le feu tout le temps. Un match c'est 90 minutes. Moi, s'il met un doublé à chaque match, il peut être mauvais pendant 45 minutes. Qu'est-ce que ça peut foutre?
Oui,
qu'est-ce que ça peut faire? Mais le mec, s'il est bon de la première à la 90e, il met un quadruplé par match.
Oui, mais toi, Daniel,
c'est quand même bizarre.
Franchement, c'est bizarre ce que vous dites.
Dans sa vie, Mbappé n'a pas marqué qu'en deuxième mi-temps. Il lui est arrivé de faire la première accélération, il met un but.
Ok, donc toi, tu veux qu'il mette 4 buts par match. 4 buts par match, c'est content.
Mais non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas ce que je dis.
Daniel, mais pourquoi pas?
On a le droit.
S'il a la capacité de le faire.
Je l'ai trouvé moins influent qu'en première mi-temps qu'en deuxième. Voilà,
mais
c'est
bon,
tout.
Il a tout. Mais là où je rejoins Daniel,
il était très bon.
Je vais voir si je peux passer un coup de fil à la FIFA, voir s'ils peuvent pas nous filer la Coupe du Monde dès maintenant, que j'en arrête de se faire chier à regarder les matchs. Parce que visiblement, il faut tous les gagner 5-0. Parce qu'il faut chipoter. Bon, bah voilà. On va voir s'ils veulent pas nous la filer maintenant, la Coupe.
Allez, on va accueillir
Tony.
Parce
qu'un match, c'est pas 90 minutes, toi.
On va accueillir Tony pour ouvrir le dossier Griezmann. Tony, bonsoir.
Salut les gars, salut Lionel.
Salut Tony.
Et Gilbert. Bon, juste un petit mot vraiment pour vous remercier pour toute l'éducation footballistique que fait l'After et surtout la 100% de transparence dans toutes les infos que vous donnez. C'est vraiment un régal, donc merci pour ça.
Merci Tony.
Ceci étant dit, moi j'aimerais faire l'apologie, vraiment je pèse mes mots, et mettre l'accent sur ce joueur fantastique qui est Antoine Griezmann, qui a été souvent décrié, parfois un petit peu à raison, c'est vrai, dans ses coups de mou. Mais depuis 2014, c'est bel et bien lui le taulier.
Et ce
match qu'il fait ce soir, je trouve qu'il est extrêmement symbolique. Parce qu'il change un petit peu de rôle, il est d'une intelligence très rare chez les joueurs de foot. Il a une vision foot et un QI foot. Je sais que Daniel, toi souvent tu mets cet aspect du jeu là en avant qui permet de faire souvent des passes en une touche, des passes en appui, Il sent le jeu, il se fait oublier et je trouve que ça crée vraiment du lien à cette équipe qui parfois est un petit peu en déficit de cohésion collective pour la création du jeu et je pense que vraiment merci à Antoine parce que si on
mais
va jouer
Tony...
dans cette Coupe du Monde encore une fois ça sera grâce en grande partie à lui.
C'est là qu'on voit que le foot de compétition internationale où tout est ramassé sur un mois avec un match tous les trois jours, c'est quelque chose de quand même très particulier parce que j'ai du mal à me souvenir de la dernière bonne saison d'Antoine Griezmann en club. Ça date maintenant vraiment. Objectivement, dans le football de club, son apex est passé depuis longtemps. Mais la faculté qu'il a à chaque fois en équipe nationale, parce que c'est rare qu'il passe au travers quand même, là, dans ce mondial, après encore la saison qui passe, ou limite, plus tellement. Enfin, franchement, les matchs qu'il fait sont très ternes avec l'Atlético, un club qui est en plus en perte de vitesse. Lui voir sortir un match comme il a fait aujourd'hui, c'est incroyable. Tout ce que tu as dit, évidemment, je valide. Son orientation du jeu, son intelligence, tout ce qu'il fait, il donne quand il faut donner.
Ses compensations aussi, défensives.
Tout son, ouais. Son jeu défensif.
Première mi-temps, je sais pas, tu l'as vu, Daniel, en première mi-temps, tout, là où on a un déséquilibre de côté droit. Et c'est lui qui vient tacler alors que Tchouaméni était pas là et il y avait plus non plus Koundé qui était pas là non plus. C'est lui qui vient tacler, qui fait le truc. C'est-à-dire que le mec, il a anticipé la perte de balle, il a fait sa course avant la passe de l'adversaire pour pouvoir anticiper. Il avait deux temps d'avance sur un geste défensif. Offensif, on a l'habitude.
Il a le sens du sacrifice, Lionel. Il a vraiment le sens du sacrifice.
Bien sûr.
Et puis, on ne parle pas aussi de sa qualité de pied, que ce soit sur des passes décisives ou des coups de pied arrêtés. On fait très mal ce coup de pied arrêté parce que ce soir encore, on peut marquer à travers Rabiot, Varane. Il y a plusieurs centres et à chaque fois c'est lui qui est dans le coup.
Et
en 2018,
et il faut absolument que ce soit lui qui les tire, les coups de pied arrêtés maintenant. Il faut que ce soit lui.
Et à ce propos, je sais pas si vous avez eu l'info, mais.
Ça, va falloir qu'il s'explique avec Mbappé alors parce que.
Non, mais voilà, on regarde aujourd'hui les arrivées. Mbappé a lâché le truc, c'est bon maintenant.
Et pour les pénalties, déjà il avait tapé en touche, mais j'ose espérer que ce soit Griezmann qui les tire. Mais
non, les pénalties, oublie, ce sera Mbappé. Alors là.
Ah ouais, c'est sûr. Bah oui. C'est sûr.
Ouais, ben c'est bien dommage. En tout cas, bon, dans un monde où maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de générations de supporters de foot qui pensent un petit peu trop joueurs FIFA avec des caractéristiques soit de technique folle, soit de vitesse, soit de vivacité. Je trouve que Griezmann, il dénote dans tous ces secteurs de jeu, mais par contre, il a une espèce de vista dans ce pied et je trouve qu'il est quand même assez sur le côté.
Le deuxième but, Tony, il est extraordinaire. Il dézone alors qu'il est resté très souvent dans l'axe. Il dézone complètement. Il va sur le côté droit et il la dépose sur. Il la met dans un endroit où Smashel ne peut pas intervenir et c'est Mbappé qui vient comme ça la mettre de la cuisse ou. Mais il lui dépose. Il a une main et puis il a anticipé la course de Mbappé, l'angle et tout ça. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. Et là, la palette, elle est vraiment très très large de Griezmann.
Il se met chiffon tous les matchs, c'est impressionnant. Lui, s'il y en a bien qui mouille le maillot, c'est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Quoi. Le mec, il est jamais décevant, même si parfois c'est vrai qu'il est un peu en manque d'inspiration, mais son jeu est tellement basé sur de l'inspiration que c'est vrai que parfois il peut avoir des soirs un peu moins inspirés, mais putain, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un mec qui dans l'état d'esprit en tout cas est vraiment.
Allons un peu plus loin maintenant. Sur son positionnement qui se confirme sans doute définitivement pour le reste de la Coupe du Monde, est-ce qu'on doit dire bravo Didier Deschamps ou alors est-ce que c'est un truc en fait qui est venu un peu naturellement que Deschamps a accompagné, enfin comment est-ce que vous voyez
il est milieu depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'en 2018 il est attaquant? À quel moment il est attaquant? Il y a deux attaquants qui sont Jérôme Mbappé et déjà à ce moment-là, Griezmann est une sorte de numéro 10.
Mais il y a une évolution,
Il est pas sur le côté. Alors il y a une évolution. T'as raison, Lionel. Effectivement.
Autour de lui. Et je pense que Dédé a dû réviser sa copie par rapport à ça.
Là, si on voit ça, ce que Kevin Diaz appellerait ça hit map, on verrait qu'il va un peu partout. Il va sur les côtés. Il revient bas.
Il est clairement une sorte de numéro 10 libre. Effectivement, il est à plein d'endroits du terrain et son positionnement et l'impression qu'on a de son positionnement, n'oubliez pas aussi qu'elle est due à un schéma tactique qu'on n'avait jamais vu avec Deschamps.
Voilà, donc il y a une adaptation de Dédé.
À savoir trois attaquants devant lui. Il y a beaucoup, reprenez tous les matchs des Bleus, il y a beaucoup plus de joueurs aujourd'hui devant le ballon qu'il y a 4 ans. Il y a beaucoup plus de solutions pour jouer devant pour les joueurs. Il a devant lui quand même Dembélé, Giroud, Mbappé. Ça change énormément de choses. Il peut venir se sacrifier au milieu.
Et d'ailleurs, aussi.
Il faudrait arrêter d'utiliser l'expression sacrifier. Il se sacrifie pas. Il joue simplement milieu. Et il est pas là pour se sacrifier. Il est là pour jouer, pour orienter et pour faire parler sa technique et sa justesse et son intelligence. Arrêtons avec les expressions qui sont hors de propos. Il sacrifie pour personne. Il est là, il joue pour l'équipe. Et le changement, c'est en 2018, il y a lui plus Giroud Mbappé. Là, il y a lui plus Dembélé, Giroud Mbappé, ça change tout. Effectivement qu'il est obligé peut-être là de compenser dans le milieu de terrain et d'être un peu plus proche des deux autres. Mais honnêtement, dans ce mouvement permanent des Bleus et dans le fait aussi qu'il joue plus haut, parce qu'il joue pas bas comme en 2018, le bloc.
Ah, il revient. Ah, le bloc,
ça donne la prestation qu'on a vue aujourd'hui d'un Griezmann rayonnant.
J'ai la carte chaude.
Lui, il a la carte chaude.
Fut un temps quand même on entendait Dédé lui reprocher de venir chercher les ballons trop bas, mais oui. Là où ça a beaucoup changé maintenant, c'est qu'il revient pratiquement à la même hauteur, mais il y a une évolution de la part de Tchouaméni et de Rabiot qui eux bah justement quand lui revient bas, tac, et tout de suite l'animation elle est complètement différente, et ça on ne l'avait pas jusqu'à maintenant,
étonnant sur cette carte chaude, Lionel, c'est que déjà on voit qu'il tue bah, la heatmap, c'est-à-dire que tu vois où est-ce qu'il a évolué sur le terrain. Tu comprends le concept? Tu vois, un terrain vu du dessus, puis tu as une idée. Et ben, en fait, il a joué un peu plus à gauche qu'à droite. Et surtout, il n'a touché qu'un seul ballon dans la surface.
Ben oui.
Ben c'est ça, en fait, le vrai changement.
C'est
le vrai
changement. C'est ça qui est notable. C'est ça qui est notable. En fait, il s'arrête de toucher le ballon à grosso modo 20-25 mètres du but adverse.
Il est plus playmaker maintenant. C'est lui qui fait plus, qui construit, qui donne le tempo.
La différence, Lionel, c'est qu'en 2018, il était attendu sur le deuxième ballon derrière Giroud, et qu'aujourd'hui, il est attendu sur le deuxième ballon de la défense. C'est lui qui doit organiser le jeu. Et c'est là, en fait, la différence.
Et ces ballons, finalement, il les joue dans une tranche de terrain qui va des 40 mètres de son but
chez toi, oui,
jusqu'à 20 mètres du but adverse. Exactement. Voilà, c'est là qu'il touche principalement le ballon.
Et je crois que c'est Tony qui le disait tout à l'heure, c'est là où il a fait la différence, c'est sur son jeu en une touche de balle. Et c'est là où il a permis à l'équipe de France de se projeter très vite.
Mais c'est pour ça, parce que c'est ce qu'on appelle, enfin, je sais pas, un peu playmaker, c'est le mec, c'est-à-dire qu'il a donné l'intensité du jeu,
ouais,
il a donné l'orientation du jeu.
Le tempo, ouais, bien sûr.
Exactement. Et ça avant, bon, il ne faisait pas, ou alors il ne donnait pas aussi, je pense qu'il a mûri, parfois aussi, il ne donnait pas la bonne intensité au bon moment. Là, il est rayonnant parce que, en tout cas, dans ces deux premiers matchs-là, quand je le vois comme ça, il ne s'est jamais trompé dans l'intensité. Il a tout le temps, et dans l'orientation non plus. Et il est allé, je pense honnêtement, hein, Gilbert, je crois, si t'as la heat map, il a dû aller une fois sur le côté droit, c'est limite des 16 mètres, quand il la donne à Mbappé deuxième poteau. Basta, le reste du temps, il n'était pas si loin, si éloigné que ça, sur le côté droit. Il était plus à gauche et dans le milieu.
Ouais, exactement. Oui, t'as raison. Là,
j'ai pas vu la heat map, mais j'en suis pratiquement persuadé.
Disons que sa carte chaude penche à gauche. Voilà.
Oui, oui,
bah, avec ton expression carte.
Tony, un truc à rajouter ?
Non, après, j'ai vraiment, vraiment très fier de la prestation collective. C'est bien aussi qu'on ait été mis un petit peu en difficulté pour trouver la faille. Je pense que pour continuer dans cette dynamique de groupe, c'est quelque chose qui va souder l'équipe. Et bien qu'on n'ait pas été très optimiste avant le début de cette Coupe du Monde, j'ai bien l'impression que ça peut être quand même une belle aventure. Donc, vraiment, très, très fier des Bleus et on va être à fond. Poursuivre ça.
Ah oui, d'ailleurs, tu as une petite précision. La France a brisé une sorte de d'habitude qui voulait que les tenants du titre
démarrent mal,
se fassent sortir à la Coupe du Monde d'après. Ouais. Ça avait été le cas de l'Espagne, l'Allemagne.
Non, ça a commencé avec l'Italie 2006.
L'Italie
championne 2006 ne se qualifie pas.
Ce qui nous a sauvé, Gilbert, c'est peut-être de faire un très mauvais championnat d'Europe.
Ah peut-être.
Juste non, derrière 2000, la Coupe 2002, du Monde, tu vois.
2002, c'est le Brésil. Le Brésil, en 2006, ils sortent de la Coupe.
Non, c'est 98-2002. La France qui gagne en 98, qui se loupe en.
Oui, mais entre les deux, tu as le Brésil qui est championne en 2002, mais qui sort de la poule en 2006 quand même. Okay. Voilà.
Tony, merci beaucoup. Tony, est-ce que tu es abonné à la revue de l'After ?
Pas encore, mais c'est dans mes projets à très court terme.
Ah, c'est un vrai projet, c'est un projet.
Je t'invite à aller sur afterfoot.media, il y a une offre Coupe du Monde, très sympa.
Je croyais que tu allais lui offrir.
Qui te fera faire quelques économies. Ouais, ça, c'était surtout pour placer l'offre Coupe du Monde sur afterfoot.media, à vrai dire.
Tu fais bien, Gilbert. Ne changez rien, en tout cas, franchement, vous êtes fantastique.
Merci Tony. Beaucoup. Et le numéro actuel de la revue de l'After est en kiosque. Il parle beaucoup de la Coupe du Monde, évidemment, et c'est aussi valable pendant la Coupe du Monde, parce que vous allez apprendre plein d'histoires. Plein
et profitez bien de cette offre, parce que le numéro 8, ça va être un sacré numéro.
Heure du lourd.
Ah oui.
Ah, il va y avoir du lourd. Alors, exactement. Voilà, je pense que là.
Il va même peut-être d'ailleurs du Youssef Boussaïev dedans.
Pas possible.
On est en train d'y réfléchir. Un point rugby, Stade Français Toulon, Julien.
Toulon est repassé devant pour la première fois de cette rencontre. 17-9 pour les Toulonnais sur la pelouse du Stade Français. Deux essais marqués et un énorme, énorme temps fort. Là, on est à 9 minutes de la fin de cette rencontre et il pourrait faire la très belle opération en s'imposant sur la pelouse du Stade Français. Il mène donc sur le score de 17-9 à 9 minutes de la fin de cette rencontre.
Donc il y a d'autres sports pendant la Coupe du Monde alors.
Bah, je
continue de se passer des choses en fait.
C'est bizarre,
parce que nous, on est ici,
y a
on
même
est un
le
peu
foot
coupé,
qui
quoi.
Continue. Hein.
Ah ouais, mais je savais pas. Pourquoi il y a quoi comme foot qui continue?
CFA, amateur, tout ça, Coupe de France. Tout ça, ça s'est.
Certes, ok.
Il y a la Coupe du Monde de biathlon qui reprend mardi, Daniel.
Mon foot, quoi.
Ah, le biathlon, magnifique.
Voyons. La Coupe du Monde reprend mardi.
C'est mardi.
C'est
tout
ça arrêté, moi.
Mardi.
Dorothée Avireur, toujours là?
Toujours là, Gilbert.
Magnifique. Dorothée Avireur.
Avec Jean Thomas, sache qu'on est des grands fans de biathlon et qu'on regarde après toutes
les. C'est vrai que je te vois regarder sur ton iPad à chaque fois.
Le biathlon, c'est génial. Il n'y a pas de Qatari au biathlon, hein, pas encore.
Ah, je pense pas. Peut-être ça va être compliqué.
Ils sont capables de
pourquoi
tout.
Pourquoi pas, hein. Bah oui. Allez, dans quelques instants, on est de retour pour continuer le débat autour de l'équipe de France avec Francky qui est avec nous, qui veut parler du système mis en place par Didier Deschamps. Et puis on aura avec nous à partir de 23h des supporters ici à Doha. Et puis on parlera aussi des autres matchs de la soirée, de la journée, pardon. On parlera de la Tunisie qui a galéré face à l'Australie. On parlera de la Pologne et de Lewandowski qui a marqué. Et puis on reviendra sur l'Argentine qui donc a battu le Mexique ce soir. 2-0. À tout de suite dans l'After. After également sur TikTok avec Oussem Moussaïef et sur Twitch. À tout de suite.
Gilbert Brivois.
Daniel Riolo et Lionel Charbonnier également. Kevin Diaz revient d'ici un petit quart d'heure et l'After continue jusqu'à 1h du matin. Tout à l'heure de minuit à 1h, c'est la libre antenne de l'After pour reparler de tous les sujets du jour et pour débattre en studio à Paris avec Nicolas Villas, avec Thibaut Giangrande. On a Francky au 32-16 pour continuer le débat autour de l'équipe de France.
Ah, Francky.
Salut Francky.
Salut, bonsoir tout le monde.
Vas-y Francky, c'est bon.
la vieille blague.
Merci Daniel, merci.
Hey, c'est un voisin. Il est voisin, Francky.
Il vient d'où?
Il voisin,
ouais, c'est un voisin.
C'est un voisin. C'est un voisin, Francky, le lac de Viry.
Tu sais qu'on est vraiment à côté, hein. C'est ce que je disais la dernière fois à ma femme. Pourtant,
bien sûr.
Croisé.
Bah ouais,
c'est la maison Viry-Châtillon.
Viry, le lac et tout.
Oussem Moussaïef qui est là aussi est aussi du coin.
Exactement, d'Evry, pas très loin.
Ouais, vous avez pas de lac.
À Viry, il y a la Seine.
Tu sais qu'à une époque, Viry, c'était un petit peu genre.
TUP.
Oh, un petit peu. Non, mais ça remonte. Hein. Et les balades au bord du lac et tout. Mais
moi, le lac, j'ai plutôt fait des prépas physiques.
Il y a 30-40 ans. Hein.
Bon, Francky, tu voulais parler du système Deschamps, toi.
Ouais. Donc pour moi, en fait, depuis le début de la Coupe, là, on avait beaucoup peur de tous ces blessés, de tout ce qu'on avait sur le banc.
Non, c'est pas vrai, parce que moi, j'avais pas peur. Donc arrêtez de dire c'est vrai comme si tout le monde avait peur. Moi, j'avais pas peur.
On constatait que le France était le pays de blessés.
Non, mais Francky, je m'en prends pas à toi. C'est Gilbert qui oublie toujours ce que je dis.
Bah, moi, je me souviens pas.
Tu sais pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'écoute plus. Il m'écoute plus.
Je me souviens pas que t'as dit que.
Bah, voilà, parce qu'il m'écoute plus. Comme il m'écoute plus, bah, après, il est donné.
Évidemment. Moi, je m'en souviens pas de ce que t'as dit.
Bah, voilà, bah,
moi, je me rappelle.
Mais Oussem, il est pas dans l'After tous les soirs. C'est, il est bon, lui.
Moi, je me rappelle. Je me rappelle qu'au mois de septembre, il y a une vidéo qui circule sur Internet où j'avais dit que la France était favorite.
Jimmy Brown nous dit, je confirme que Daniel était anormalement confiant.
Jimmy, c'est Jimmy, il écoute.
Jimmy.
Jimmy, il a un seul défaut, il sait. Pour le reste, tout va bien. Il en a un seul.
Il aime un milieu de terrain qu'il ne doit pas aimer, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est bon, voilà, il est jeune.
Ah, d'accord.
C'est bref.
Francky, vas-y, on t'écoute.
Donc, ouais, je voulais vous appeler il y a quelques jours déjà, mais je n'ai pas pu. En fait, pour moi, tout ça, c'est bénéfique. C'est très bien. Enfin, c'est malheureux pour les blessés, bien sûr. Mais c'est très bien pour l'analyse de jeu. Ça veut dire que, donc, du coup, on n'a aucune équipe en face qui arrive à nous analyser. Tout a changé, la défense a changé, le milieu a changé. il reste juste l'attaque avec Mbappé, mais au final, le duo Mbappé-Giroud, on ne le connaît pas. La défense, personne ne peut nous analyser. Koundé, moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas du tout. Premier match, il m'a fait
comment
peur.
Comment ça, tu ne le connaissais pas du tout? C'est bizarre que tu dises ça.
Ouais, non,
ça veut dire quoi, tu ne le connaissais pas, en fait?
Bah, je ne connaissais pas son jeu, je ne connaissais pas du tout comment il jouait. Je me demandais c'était qui.
Ah, tu ne regardes pas assez les matchs? Tu ne regardes pas ce qu'il faisait avant ou ce qu'il faisait à Barcelone?
Non, non, j'ai jamais, Barcelone, j'ai jamais vu ce joueur jouer, en fait.
Ah, d'accord, j'avais d'accord, jamais d'accord, vu jouer. Okay. Mmh, ouais.
Et quand je l'ai vu le premier match... Bon, il m'a pas étonné, mais ce soir, au début, il avait du mal, et plus le match avançait, et plus il avait confiance en lui. Mmh. Il est monté sur corner, il est intéressant. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, cette équipe de France est très très bien, parce que personne peut nous analyser. On n'a pas Kanté, mais on a Griezmann. Grâce à Griezmann.
Et quand tu dis personne peut nous analyser, tu veux dire qu'on peut, en fait, on surprend parce qu'on a changé, parce qu'on a fait évoluer l'équipe par rapport à il y a 4 ans, parce que et donc les gens ne s'attendaient peut-être pas, les adversaires ne s'attendent pas à ce qu'on produit, quoi.
Exactement. Regarde.
D'accord. C'est ça que ça veut dire.
On a perdu combien de matchs contre les Danois là? On a perdu
les deux derniers contre eux. Ouais, les deux derniers contre eux.
Lionel, tu voulais dire un mot?
Non, mais ce que je disais, justement, par rapport aux Danois, déjà, tout a changé. Et en plus, il y a quelque chose d'énorme, et je suis d'accord avec Francky, qui change énormément. C'est-à-dire que le 4-3-3, on l'a déjà eu, mais on a eu tout le temps un 4-3-3 serré, avec un Mbappé qui jouait très, très proche de l'attaquant et un mec à droite qui jouait très très proche de l'attaquant, quel qu'il soit. Alors que là, on joue sur un 4-3-3 ouvert, comme on le pratiquait nous, pratiquement avec la JOCR, avec les mecs qui bouffent les lignes. Mbappé très écarté et Dembélé très écarté. Et après, c'est des mecs qui viennent s'engouffrer comme ça dans le milieu. Bien sûr, ça bouge, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est 80% du temps. Pourquoi tu joues dans un 4-3-3 serré? Pour laisser passer les latéraux. Et le fait de laisser passer les latéraux, ça te crée ce déséquilibre dans le dos en cas de contre-attaque. Et aujourd'hui, avec ce 4-3-3 ouvert, les latéraux montent beaucoup moins. Koundé l'a fait une ou deux fois. Il est resté beaucoup plus derrière. Il y a beaucoup plus d'assises défensives maintenant. Et ça a surpris aussi nos Danois qui nous ont pas pris une fois dans le dos, contrairement aux deux matchs sur lesquels ils ont pu nous battre.
Alors, j'aimerais, Francky, tu peux rester avec nous si tu veux. J'aimerais maintenant qu'on ouvre un autre dossier, c'est le dossier Dembélé. Est-ce que ce soir, Dembélé n'a pas joué son meilleur match en équipe de France? Je pense que la réponse est oui. Vous n'avez pas d'exemple d'autres matchs de Dembélé comme ça?
Oh, il y a un vieux match qui traîne d'il y a longtemps. Il était jeune contre l'Italie, mais c'était un match amical ou un match de qualif ou je sais plus. Enfin, rien de comparable avec un match de Coupe du Monde, quoi qu'il en soit. Effectivement, ce qu'on a vu cette année au Barça, le travail que lui a fait faire Xabi, les conseils qu'il lui a donné, j'imagine les prises de tête, hein, parce que Dembélé, ça n'a pas toujours été simple, hein, qu'il entende ce qu'il faut faire pour le haut niveau. Je pense que tout ça est en train de payer. C'est effectivement une sorte de nouveau joueur. Oui, sur
son
le côté
recul
ce qu'il
aussi
apporte...
de lui-même, hein, Daniel. Son recul qu'il a pris par rapport à la maturité qu'il a pris.
Une évolution.
Il en parlait tout à l'heure. T'as pas entendu.
Sa vie privée a changé et s'est stabilisée. Et ça joue énormément dans la carrière d'un joueur. On le sait. Là, il est beaucoup plus focus. J'aime ce qu'il fait sur le terrain. Je trouve que c'est même intéressant aussi qu'il donne beaucoup pour laisser sa place à Coman, parce que ses entrées sont souvent très bonnes aussi aux joueurs du Bayern. Donc ça permet sur le côté de donner une autre solution à Deschamps. Mais là, il n'y a aucune raison qu'on se pose des questions sur sa présence ou non. Oui, parce qu'en 2018, rappelons qu'il avait fait le premier match et puis qu'après il avait disparu. Là, il est là. Premier, deuxième match, 6 points. Pour ceux qui adorent les signes, je sais jamais quoi faire avec ces signes-là, mais bon, quand la France gagne ses deux premiers matchs comme ça, elle est championne du monde derrière. Voilà. Vous plaît, vous, ces signes-là, vous aimez ce genre de choses?
Quand tu bats le Danemark aussi.
C'est comme quand il y a le Danemark aussi, donc voilà, bref, si vous aimez tous ces trucs-là, c'est bouclé, on peut arrêter tout de suite, c'est en poche. Bref, revenons à Dembélé. Il sera titulaire maintenant dans cette équipe de France et je pense qu'il le mérite là. C'est très intéressant.
Lionel,
ça fait surtout une autre piste d'attaque. tu peux te focaliser sur Mbappé, mais quand tu vois ce dont t'es capable Dembélé, ça peut t'allumer une défense.
Dembélé, moi ce que j'ai bien aimé ce soir, c'est que en fait ce qu'il fait est très varié. C'est-à-dire que souvent quand t'as un latéral qui monte ou un ailier, voilà, bon, tu t'attends à peu près toujours au même truc. Là, Dembélé est capable de centrer, il est capable de rentrer en dribblant, il est capable de temporiser, de dribbler deux mecs, trois mecs, de partir en diagonale. Enfin voilà, il a quand même une variété dans le jeu,
mais
c'est pas mal.
Voilà. Mais ouais, vous avez tout dit. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et ça, c'est ce qui fait. Il a beaucoup plus d'armes actuellement. Avant, il utilisait une arme, honnêtement, à ses débuts. Je me souviens d'Embélé. C'était et encore, il la maîtrisait pas trop. Il avait sa vitesse de course et il avait sa technique qui était vraiment pas adaptée à sa vitesse de course.
Et
là, il a vachement progressé par rapport à ça. Maintenant, il maîtrise tout ce qu'il fait, que ce soit à 2 à l'heure ou à 2000 à l'heure, c'est impossible de lui prendre le ballon. Et en plus, voilà, ce que tu dis, Daniel. Enfin, non, c'est. Je sais plus qui est-ce qu'il disait.
Qu'importe.
Ouais. Franchement, maintenant, c'est très varié. Avant c'était aller vite, c'était basta, c'était tout. Là maintenant il est même capable de dribbler arrêté. Avant il était incapable de faire ça. Et dans tous les compartiments, que ce soit dans les 16 mètres, au début du, au niveau du milieu de terrain, tout ça. Non, sa panoplie elle est très 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 étendue. C'était toi Gilbert qui disais ça.
C'est fini au rugby entre le Stade Français et Toulon, Julien Richard.
Première défaite de la saison à domicile pour le Stade Français, battu par Toulon 17-12. Le Stade Français qui sur le gong, sur la sirène, décroche le point de bonus défensif et va devoir se contenter uniquement du bonus défensif. Le Stade Français 4ème, le rugby club toulonnais remonte à la 5ème place du top 14 après cette victoire, donc 17-12 sur la pelouse du Stade Français.
Merci et bonne soirée. Je remercie Francky également au 32-16. On va continuer à parler d'équipe de France dans quelques instants, évidemment, avec une évaluation qui nous permettra de parler des autres, hein, parler de Varane, parler de
Koundé, parler de
Théo Hernandez, ou pas Mécano, etc. Avant d'analyser les autres matchs du jour ensemble et de retourner en Argentine, retrouver Georges Quirino. Et puis, je vous rappelle une nouvelle fois, hein, si vous écoutez l'After en direct, là, que l'After est également toujours disponible en podcast, notamment sur les applis RMC et RMC Sport, applis qui vous permettent également d'écouter la radio digitale 100% Coupe du Monde d'RMC, 24h sur 24. Radio disponible sur les applis. Vous avez deux choix sur l'appli, soit la radio classique, hein, RMC, avec toutes les émissions que vous connaissez, soit la radio 100% Coupe du Monde, et ce sera comme ça jusqu'à la fin du mondial le 18 décembre prochain. Allez, à tout de suite dans l'After qui est là jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs sur RMC.
RMC, After Foot, intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Daniel Riolo est là et Kevin Diaz nous rejoint. Il remplace Lionel Charbonnier, que l'on remercie chaleureusement, bien sûr. Kevin, rebonsoir.
Salut à tous, salut Daniel.
On est à l'aise, hein, parce que c'est pas le même poste et pourtant il le remplace. Bravo.
Écoute, c'est ça la polyvalence.
C'est vrai que Kevin, dans les bus, j'imagine pas une seconde.
Ah non, oui, c'est une passoire.
Figure-toi que j'ai joué un match amateur dans les bus suite à la blessure de deux gardiens.
Et ça, doit pas être beau.
On a gagné 2-1, j'ai pris un pénalty.
Est-ce que c'était pire que Stephen Brun?
Oh, c'était largement mieux que Stephen Brun.
Très bien. Oussem Loussaïef est là également, il est resté parce qu'il a entendu qu'on parlait de la Tunisie, donc il s'est dit je vais rester parce que j'ai deux trois trucs à dire.
D'ailleurs, c'est lui qui va en parler. On va laisser se défouler un peu.
J'ai deux trois trucs à dire, exactement. On a également un premier invité avec nous ce soir, Yves Godard est là, bonsoir.
Bonsoir.
Qui bosse ici au Qatar, chez Ducasse. Ah, vu quand on dit ça, ça fait la classe. Ça fait,
Et ce n'est pas le fils caché du docteur Godard.
non, pas du tout.
Non plus le fils de Jean-René Godard.
Exact.
Ni celui de Jean-Michel.
Ou Jean-Luc Godard.
Voilà. Ah, c'est vrai que c'est Godard.
Là, on a cité des célèbres quand même.
Il y en a pas mal, ouais.
Donc, bah, raconte-nous ce que tu fais ici au Qatar.
Et ben, moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi à Doha avec ma famille et je m'occupe de toutes les opérations pour le groupe Alain Ducasse à Doha. Donc, on a 4 restaurants pour faire court et un service réception événementielle. Donc, je m'occupe de tout ça.
Bon, et t'aimes le foot, évidemment.
J'adore ça, j'ai joué au foot plus jeune, j'écoute l'After depuis 10 ans.
Quel poste t'as joué ?
Alors moi j'ai joué, quand on est petit, on joue à plusieurs postes, donc j'ai fait arrière droit, arrière gauche, j'ai fait devant, j'ai fait derrière, j'étais un peu partout.
Et donc tu confirmes que le Qatar est un vrai pays de football alors ?
Alors je confirme que le Qatar est un pays qui est passionné de football.
Ah, c'est différent de dire que c'est un pays de football.
C'était différent de dire que c'est un pays de football. Mais par contre, si on parle de pays de football, la France n'est pas réellement un pays de football non plus. Donc après, le Qatar, ils sont passionnés par le football. C'est pas encore un pays de football. Je pense que ça pourra le devenir. Ils ont mis beaucoup de choses en place avec le système Aspire pour y arriver. Donc je pense que c'est en bonne voie. Il y a un vrai engouement. Au sens plus large, il y a un vrai souci de développer le sport ici à Doha. Il y a quelque chose qui est très méconnu en France, mais par exemple, il y a la journée du sport. C'est un jour férié, c'est le sport day.
Si, si.
Oh, le rêve de Gilbert.
C'est le sport day. Donc le sport day.
J'espère que notre ministre des Sports entend ça.
Mais c'est vraiment une belle initiative. Les écoles sont fermées, tout le monde est incité à faire du sport. Ce jour-là, on voit régulièrement l'émir avec des enfants aller faire du sport sur un stade et autres. Donc il y a vraiment une vraie étonnant. Motivation de faire en sorte que le sport soit vraiment...
Bon, cela dit, ils partent de loin.
Oui.
Parce que je pense qu'il y a un taux d'obésité déjà ici qui est très important.
J'allais y venir. Le problème, il vient de là, en fait.
Donc il faut apprendre aux gens à faire du sport, en fait, ici.
Il faut apprendre à brûler des calories, à bouger, à manger équilibré. Et donc, du coup, le sport, c'est vraiment quelque chose d'important.
Bon. T'as vu passer quelques Français fouteux là dans tes restos ?
Oui, ben oui, on a vu.
Hier soir, elle a vu passer des Français célèbres.
Oui, on a vu passer des Français très célèbres.
Hier soir ?
Ah, hier
ah
soir.
La chance. Le mec était dans le truc.
Non, mais on a eu la chance d'avoir régulièrement Franck Passy, Laurent Blanc qui venaient nous rendre visite.
Oh là, mais c'est pour ça qu'après, tu leur faisais à manger. Après, tu es sur le terrain, il n'y avait plus rien. Ils avaient la tête ailleurs.
Mais d'ailleurs, j'ai entendu certains commentaires par rapport à ça. Et alors, sans trahir de secret, par rapport à l'épisode, parce que c'est des petites conversations qu'on a eues, et il y avait une histoire de visa par rapport à des nouvelles recrues qui n'étaient pas données à temps. Et donc, ils ont commencé le championnat avec l'effectif au complet à partir de la 9e journée. Ce qui leur avait, au final, les permis de travail pas délivrés à temps et ainsi de suite. Donc, du coup.
Vous expliquez.
Voilà. Eh oui, Daniel, toi, t'es là, tu critiques.
Donc, tu joues pas au golf?
Pas du tout. Alors
ça,
pas du tout.
Sinon, tu l'aurais croisé au golf, sans feu.
Yves, on va continuer le débat autour de l'équipe de France avec Kevin. Et puis, on a deux autres invités qui sont là, deux supporters des Bleus. Ils sont venus avec leur maillot, d'ailleurs.
Ah bah, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont joué. Ils ont fini le match.
Bah...
J'ai vraiment tenu l'autre les choses.
Ah non, mais je n'avais pas vu. C'est impressionnant. C'est Jocelyn qui est là. Bonsoir.
Bonsoir. Jocelyn, le maillot joue bien, mais pourquoi la tenue complète pour la
Jocelyn, short blanc, chaussette
rouge. En première mi-temps, j'étais tendu, ils m'ont un peu énervé, et du coup, j'étais en train de me faire les étirements, échauffements, pour être prêt à bondir sans pousser droit.
Donc, t'es allé au stade comme ça, habillé
ouais, au stade avec les chaussettes et tout.
Et t'as les pompes aussi, fais voir.
Non, les pompes, non.
C'est celle de running, j'ai pris. Hein.
Ah, ouais. D'accord. Bon.
Pour aller vite. Ah, le mec, il s'implique, hein.
Ah non, bravo, bravo, bravo. Et Olivier est là également, salut Olivier.
Salut les gars, ça va?
Salut. Olivier est en jogging.
Alors,
bien sûr, classe.
On va revenir sur l'évaluation, mais je voulais juste quand même dire un mot. En fait, avec Jocelyn, on s'est vu à l'aéroport.
Tout à fait.
Parce qu'on était dans l'avion ensemble quand on est venu à Doha. Et donc, tu m'as raconté que toi, tu fais partie de ces supporters qui ont été invités.
Exactement.
Alors, raconte un peu comment ça se passe.
Bravo. Parce qu'en fait,
il y a eu de les.
Il y a eu beaucoup de fausses informations, approximations, exagérations.
T'as été invité partout.
Depuis le début, il y a des fausses informations. Oh, bah merde alors.
Ah, bah, oui,
on va découvrir.
Mais t'as été invité par qui, Jocelyn?
Alors, j'ai été contacté par un fan leader qui est en contact avec le Supreme Committee qui organise la Coupe du Monde au Qatar, les Qataris.
D'accord. Donc, un fan leader, c'est un gars qui.
S'occupe d'influenceur, on va dire, qui.
Donc, toi, c'est quoi sur Instagram, par exemple, ou Twitter, je sais pas
En fait, je le connaissais déjà depuis la Russie. En fait, j'étais déjà en 2018 à la Coupe du Monde en Russie, donc on s'est déjà un petit peu dans un groupe de supporters. Et du coup, il m'a contacté pour ce projet-là, sachant que moi, au départ, j'avais pas déjà mon billet d'avion pour venir que deux semaines, j'ai pas encore prévu de logement. Et il a proposé cette opportunité-là de candidater via un site spécifique, Qatar, fan, etc. Fallait en tout cas prouver qu'on était vraiment un vrai supporter. C'est pas très compliqué, vu que j'ai fait l'Euro, l'Idée
Nation. Tu l'as prouvé, t'es rentré tout le temps.
Voilà.
Hein. Il a les chaussettes, le short.
Donc c'était assez simple, c'était pas garanti, mais du coup, il était plutôt confiant pour moi. C'était il y a quelques mois, et j'ai une réponse positive quelques jours après. Et du coup, l'engagement, enfin, le concept, c'est qu'il nous offre le vol. Aller-retour du début à la fin de la Coupe du Monde. L'hébergement, qui est plutôt sympa,
Je suis allé faire un tour, Gilbert, dans... parce que je fais un reportage pour le digital de RMC Sport.
Voilà.
Ils ont un très, très bel établissement où ils logent. Je ne veux pas dire que c'est mieux que là où on loge nous, mais...
mais pas loin.
Mais pas loin. Mais
on est... J'ai pas de mal à y croire. On est bien lotis. Franchement, c'est...
Ils sont très bien lotis.
Donc, vous avez des appartements, vous êtes à plusieurs...
Exactement. On est 5 par appartement. C'est assez grand. Grand salon, 3 chambres, 2 salles de bain. Enfin, c'est... Franchement, c'est plutôt bien. J'ai cru comprendre que d'autres supporters ailleurs étaient moins bien
lotis. Plus les places de match ?
Alors, seulement le match d'ouverture.
D'accord.
Et que Qatar Équateur.
Ah, les autres, ça. Il a fallu que tu te les procures.
Surtout, c'est déjà le cas, vu que c'est un champion club de supporters de l'équipe de France. J'ai déjà les billets pour les matchs.
Ah, d'accord, ok.
Donc, ça, c'est pas un problème en soi. J'ai déjà ce qu'il faut, jusqu'à la finale, s'il faut. Donc, ça, pas de souci. Et bon, c'est vrai qu'en termes de budget.
Et la, les repas ?
Les repas, non.
Bah ça, faut bien qu'il paye un truc quand même.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
Les repas, c'est Yves. C'est Yves qui
a allons au bout de la démarche.
J'ai eu l'adresse pour les repas.
Allons au bout de la démarche.
Donc, du coup,
est-ce qu'ils t'ont demandé ? Est-ce qu'ils ont dit, bon, par contre, vous venez au Qatar, les gars, dites pas de mal du Qatar. Que des bonnes choses.
Moi, j'ai eu aucune m'a été imposée.
Aucune consigne là-dessus.
Aucune consigne. Le deal, c'est. Le vol, l'hébergement, le match d'ouverture, il fallait être là à la cérémonie d'ouverture. Je pense qu'ils voulaient vraiment ça, qu'il y ait chaque groupe de pays.
Il faut quand même qu'il puisse rentrer chez lui, quand même. Parce que le billet retour, il l'a, mais bon.
Le retour, on l'a. Le ouais, retour, bon, on l'a.
Après, est-ce qu'il sera pas validé au moment de l'enregistrement pour voir les posts sur les réseaux sociaux.
Mais fais pas peur. Du coup, c'était vraiment ça pour eux. Je crois que ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'ils voulaient vraiment qu'il y ait des délégations de chaque pays représentées à la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que pendant la cérémonie d'ouverture, il y a un moment où il y avait France avec des petits chants par pays. Ouais. C'est vraiment ce qui intéressait. C'est tout. Après, voilà, moi je suis en mode supporter comme d'habitude. J'ai fait des Euros, des Ligues des Nations, une Coupe du Monde précédemment. Je suis comme d'habitude sur mes réseaux, rien ne change. J'ai ma vie comme d'habitude. Donc,
tu vois des supporters dans les rues comme d'habitude.
Oui, oui, oui. Franchement.
Tu te balades en ville, tu vois. Sauf que c'est peut-être des supporters qu'on ne croisait pas dans d'autres Coupes du Monde parce qu'on est dans une autre région du monde.
Exactement.
Et tu t'aperçois que c'est un grand événement pour une autre région du monde.
Exactement.
Et que peut-être qu'eux aussi avaient le droit à vivre cette Coupe du Monde là, mais que visiblement
oui, beaucoup alors, de
gens
Daniel,
ont du mal à comprendre. Ce que tu as dit, j'y ai repensé vraiment, et les gens peut-être se rendent pas forcément compte que les grandes équipes nationales type France, Angleterre, Argentine, Brésil ont des fans énormes avec des grandes stars, Messi, etc., qui ont un impact sur d'autres parties du monde qu'on ne connaît pas forcément et qui a vraiment des vrais supporters. Malgré les faits qu'il n'est pas forcément les mêmes.
Là, on parle des fameux supporters indiens, par exemple, qui sont des supporters qui sont vraiment engagés parce qu'ils aiment l'équipe de France, voilà, comme ils pourraient aimer une autre équipe. Non, mais ce qu'on voit aussi dans les rues de Doha, il faut le dire, c'est que moi, je vois plus de.
Saoudiens.
Non, alors,
les pays, tu sais,
Moi, je vois plus de travailleurs ici qui viennent du Bangladesh, du Sri Lanka, d'Inde ou quoi, aimer le foot que de Qataris, en fait. C'est ça qui me surprend là. En fait, on voit assez peu de Qataris dans les rues là, même avec les drapeaux de leur pays.
Bah, ils sont moins nombreux aussi. Hein. C'est
Yves. Oui.
C'est pour ça. Je pense que vous en avez parlé dans une émission précédente.
Oui, il y a que 300 000 vrais Qataris sur 3 millions d'habitants ici.
Bah, c'est ça. Donc forcément, bon, dans la masse, on les voit un petit peu moins.
Sans doute. Enfin, c'est vrai que les groupes de supporters, en tout cas.
Moi, ce qui m'a marqué, Gilbert, dans tout ce que j'ai fait.
Travailleurs qui viennent d'autres pays d'Asie, c'est
ce que j'ai pu traîner kilomètres enchaînés, c'est que les pays limitrophes et les pays à 2-3 heures de vol ont énormément de supporters. J'ai parlé de la Tunisie, du contingent d'expatriés. L'Arabie Saoudite, ils sont venus, mais en nombre. Tu imagines même pas combien il y a de Saoudiens dans la ville. Les Marocains aussi sont venus en nombre. Il y a énormément de Marocains. Donc, tous ceux qui sont à 2-3 heures de vol sont vraiment.
Mais finalement,
le
projet initial, la phrase qui avait été prononcé en 2010 par Platini quand il avait dit ce sera la Coupe du Monde, la Coupe du Monde du monde arabe. Mais c'est exactement ça. On s'en rend compte aujourd'hui dans les rues, parmi le contingent des supporters.
Aussi du continent indien, puisqu'il y a
Oui. Et une partie du monde, il faut bien le dire, qu'on ne connaît pas et qui est très loin, très éloigné de tout ce qui se dit en Europe et notamment
voyages,
en Europe du Nord.
En tout cas, c'est très beau.
Et beaucoup de gens, il faut le dire aussi, n'en ont un peu rien à cirer de ce qui se dit en Europe. Il faut aussi le dire, parce qu'on est évidemment très auto-centré, et il y a énormément de gens qu'on croise, qu'on a, dit, bah ouais, mais ce que vous dites et tout, bah, nous, en Afrique, en Asie, tu vois, on en a un peu rien à caguer, quoi. Il faut bien le dire aussi. Les Allemands sont en train de se faire une guerre personnelle contre cette Coupe du Monde encore aujourd'hui, à pas vouloir se rendre à la conférence de presse. Flick est venu tout seul.
Il a dit que c'est parce que le centre d'entraînement.
Parce qu'il est mal installé. Parce que, ouais, mais les Allemands ont perdu la moitié de leurs téléspectateurs, quand même, sur cette Coupe du Monde. C'est un choix. Que chacun soit libre.
Par même temps, ils sont nuls.
Qu'il le fasse.
Mais ça peut aussi jouer.
Qu'il fasse
fassent comme ils ont envie. Mais néanmoins, il faut aussi savoir qu'un autre monde existe, qu'il est là et qu'ils se tiennent très très éloignés de tout ce qui est dit. Ça fait... C'est également intéressant d'ouvrir les yeux sur d'autres réalités dans ce monde. Moi, personnellement, je ne connaissais pas cette région du monde. Oui. Et je ne connaissais pas toutes ces populations. Mais là, je le vois.
Jocelyn, pour finir sur le sujet de ton invitation, tu as constaté que ça a été le cas aussi de beaucoup d'autres supporters d'autres pays. Pas, je sais pas, les Belges, les Argentins
Alors, ou autres. Moi, je suis dans le lotissement, enfin, bâtiment où on est. Il y a des Sénégalais, il y a des Saoudiens, il y a des Américains.
Qui eux aussi ont été invités.
Exactement, avec le même principe.
D'accord.
D'autres nationalités, Olivier, t'as rappelé ?
Je crois que t'as tout dit, je crois que t'as tout dit.
Là où on est en tout cas.
Il n'y a que ça, mais on sait que les 32 nations ont été invitées en fait. Il y a à peu près entre 30 et 50 personnes par nation. Voilà.
D'accord.
Ah, bah, chaque le pays comité a eu 30 à 50 personnes.
À peu près, c'est ce qu'on nous a dit au
Mais ça, c'est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Hein. Enfin,
Ah oui. C'est tombé du ciel. Honnêtement, quelques mois avant le mondial, j'étais à ne pas aller pour des raisons de budget.
Ah oui, ça coûte très cher, oui.
J'avais sûrement les billets pour les matchs.
Est-ce que tu t'es pas dit, mais attends, y aller payé par les Qataris, ça me gêne ça
Payé, enfin, ils m'offrent le vol et l'hébergement.
Oui, enfin, quand même, ouais. c'est un peu ça.
Ils te donnent pas d'argent, mais payé, invité, voilà.
Dans le sens où le deal, je sais que je n'ai pas de contenu à faire, de témoignage à faire, je
vais les défendre. Il n'est pas arrivé en sortant du studio si tu vois, on l'oblige pas à dire des choses.
J'avais mon vol pour venir au Qatar pour la Coupe du Monde. J'allais venir après les 8e jusqu'à la finale, comme j'avais fait en Russie. Donc c'était un bon bonus qui m'a permis d'acheter des places pour d'autres matchs en parallèle pour me faire plaisir.
Olivier, alors toi t'es président d'une association de supporters, hein.
C'est ça, les baroudeurs du sport. Vous avez une écharpe d'ailleurs. Les baroudeurs du sport, Daniel.
Les baroudeurs du sport, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une association. les gars, excusez-moi, mais si vous pouvez faire quelque chose, j'y pense là quand je vois avec ton écharpe et tout, j'y pense. Vous pouviez faire quelque chose pour les chansons,
le chant
des Bleus.
Le chant.
Qu'est-ce qu'on est tocards. On est vraiment tocards.
Daniel,
les Argentins. Là, les Français, franchement, c'est.
Allez les bleus.
T'es dur. Oh mon Dieu.
Là, il y a
une nouvelle chanson. Je l'entends. J'ai envie de te barrer.
Attends.
Les gars, faites quelque chose.
Daniel.
On va l'écouter, la nouvelle chanson. Mais après, les explications d'Olivier.
C'est dur, ce chant-là. Je ne suis pas.
On veut l'entendre.
Là, c'est pour chut.
Allez.
Ah, notre réalisateur n'ose pas le mettre. Il est tellement nul, il n'ose pas le mettre.
Bah, qu'est-ce qu'il fout, Paul?
C'est pas Paul, on est samedi, là.
Ah oui.
Eh oui. Il arrive dans
un instant. Allumez-toi, on a deux étoiles, on veut la troisième étoile.
Oh là 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 là. Vous avez pris la chanson qui est sortie comme ça l'après-midi d'inspiration.
Mais même l'après-midi,
même le matin,
ça peut pas sortir une chanson.
Daniel, je vais te dire, moi, je vais te dire la vérité.
Oui,
c'est une chanson. Vous suivez le football, on vous écoute tous les jours. Vous connaissez le football.
Oui.
C'est une chanson, c'est un air qui est souvent repris au Vélodrome, à l'extérieur plutôt. On s'est basé
très loin alors.
C'est-à-dire très loin. Non,
très loin à l'extérieur. Du Vélodrome.
Non, Kevin, je te jure, je t'envoie la vidéo
ça,
après.
Je vous montre la chanson de stade, ça.
C'est une
on
l'air.
Je te parle de l'air.
Évidemment,
c'est
on est
au l'air. Tu comprends pas ça.
L'air derrière.
Non, mais je le reconnais même pas.
Bah, je te montre la vidéo après, à l'extérieur.
C'est une tentative.
Ouais. Évidemment, Daniel le dit, c'est souvent les mêmes chants, l'équipe de France. Nous, on essaye, enfin, nous, les supporters, pas que nous, on essaye d'apporter un vent nouveau, des nouvelles chansons. Évidemment, vu comme ça, dans l'après-midi, tout le monde la reprend pas en petit comité, je te l'accorde, c'est pas.
Oui,
c'est pas ouf.
Non, mais le temps, les supporters le temps, français ont quand même un panel de chansons dans les stades qui est quand même énorme.
Oui.
Ça va de la Marseillaise à Lens ou de la Lensoise. Ouais. Bon, il y a les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens, il y en a plein des chants qui sont super.
Si c'est pour faire qui ne saute pas n'est pas français.
Kevin, je vais te dire, tu les entends,
les Argentins, Kevin, les Anglais, les chansons qu'ils ont, mais pourquoi on n'a pas, nous.
Mais Daniel, ce qui est drôle, c'est que j'y ai pensé, je l'ai dit pendant le match avec Gilbert. C'est ne serait-ce que les Argentins, la façon dont ils font pas tourner l'écharpe, la façon dont ils lancent l'écharpe avant arrière, déjà il y a le style. Donc là,
Kevin, après, défends un peu les sportifs.
T'as une histoire en fait. On fait du clubisme en France, même en équipe de France. Ça veut dire que des fois des hauts armes. On peut pas y lancer parce que c'est un chant qui est.
Ah ouais, non, c'est un supporter du PSG, le fera jamais.
Voilà, et même.
Ça c'est normal.
Ouais, ça c'est normal. Ça, dans ce cas-là,
il y a des choses, non, a des choses tu peux pas faire.
Oui, ok. Dans ce cas-là, on est obligé de créer des champs.
Faites ramener la coupe à la maison, je sais pas, faites un truc, je sais pas.
Ouais, là, tu me parles d'un mec qui est en studio pendant des mois, qui a fait un truc. Nous, on est là.
Kevin, il
on n'est pas aidé. Kevin, on n'est pas aidé ici. Et puis, je vais te dire la vérité.
Attends, laissez parler Olivier.
Je vais te dire la vérité. Et on le sait, on n'est pas un pays supporter. La Corée du Sud, ils nous mangent. Tous les pays du mondial, ils nous mangent dans les champs. On le sait.
J'ai pas vu ça, dis-moi.
Je te montre après le cortège des Coréens, c'était hier le match, mais c'est de la folie en fait.
Ah ouais,
mais c'est des ouf les mecs.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent aussi?
Ils chantent, ils ont des chants, sauf que les Coréens c'est carré. Il y a rien qui bouge, c'est carré. Je pense que les chants ils viennent de la Fédé. Tout le monde les reprend.
Raconte-moi les différentes délégations, ça m'intéresse.
T'as vu les Japonais?
Les Sud-Coréens, tu les as vus?
Ouais, ouais.
Ils sont bien beaucoup, ils sont
énormes. Délégation, mais c'était 50 000,
tout le monde. Les Japonais, c'est incroyable.
Les Japonais aussi.
50 000, non, quand même.
Non, j'ai vu les
Japonais.
C'est genre après, au moment de la pub, quand Paul y met la pub, je te montre les vidéos. C'est un truc de.
Et après, il y a quoi d'autre qui t'a.
Les Japonais, j'ai été à Japon, Allemagne, les Japonais.
Les Japonais, ouais. Les Japonais.
Carré, machin, des dizaines de banderoles, les mecs debout tout le match, à chanter des noms.
Les Argentins, oui. Les Tunisiens et les Marocains aussi sont venus.
Après, il y a également, dans la région, c'est aussi, il y a une partie de cette Coupe du Monde qui est un peu Coupe du Monde de foot X. Moi, en sortant du club de tennis tout à l'heure, j'ai vu, mais ils avaient un couple, maillot bleu comme vous là, j'ai dit, oh tiens, des Français. En même temps, ils pas tellement là, sur la tête, ils n'avaient pas vraiment l'air de français. Donc, ils ne parlaient pas français, j'ai pas compris la langue qu'ils parlaient. Alors, ils avaient maillot France. Le bas c'était je sais plus quoi, la casquette Allemagne. Ils avaient trois pays sur eux.
Ils avaient trois billets.
Ils vont où?
C'est pas les supporters de l'OM.
Je sais pas, mais vraiment c'était très bizarre.
Non mais en fait après l'autre souci sur les chants, c'est
qu'on peut... m'a dit mais
enfin en tout cas, ils sont pas mal, mais ils chantent pas en fait. Les Allemands ils chantent pas, les Néerlandais ils chantent pas, les Anglais sont beaucoup, ils font pas de bruit.
Mais tu vois, par exemple, tu parlais du clubisme, moi quand j'ai couvert la Tunisie, la plupart des chants de l'équipe nationale, des supporters, sont des chants du club africain ou de l'Espérance de Tunis ou de l'Étoile du Sel. Donc ils reprennent les sons et les chansons des différents clubs.
Les Marocains aussi font ça.
Ouais, ils font tout ça. J'avais un exemple, Gilbert, parce que bon, à l'Euro 2016 j'ai particulièrement suivi le Portugal. Et tu te rappelles que tout le monde disait, notamment en France, que le jeu du Portugal n'était pas beau, que c'était dégueulasse, etc. Et donc le chant qui a été donc jusqu'à la finale et bien après, c'était peu importe, moi je vous le fais pas en portugais, mais ça faisait peu importe si on joue bien ou mal. Nous, ce qu'on veut, c'est ramener la coupe au Portugal. Tu vois, mais le chant était incroyable.
Ça, c'est rigolo. Et savoir que c'est moi qui l'aurais inspiré, ce chant, c'est formidable.
Daniel, je t'assure, et tu sais qu'il y avait beaucoup de Portugais quand même à l'Euro 2016, mais le chant chanté par 20 000 Portugais dans le virage, mais c'était
ça,
dingue.
C'est bien.
Tu vois, c'était dingue parce que il y avait les tripes en mode on joue pas bien, mais on va gagner quand même, tu vois. Et donc,
c'est ces sous-entendu, on voit bien qu'on joue pas bien.
Ils étaient lucides, mais ils ont juste gagné une fois.
Tu vois. Voilà, mais moi qui suis pas du tout supporter ni en club, mais comment on crée un chant en fait? Comment ça naît? Vous discutez entre vous?
Même pas. Ce matin, on était, on va dire, à l'apéro du café, on va dire à midi, 13h. On disait, on se prépare un peu, on disait, c'est vrai que ça fait des années qu'on suit l'équipe de France maintenant. On dit, qu'est-ce qu'on peut essayer d'impulser, tu vois, un vent nouveau. Et puis, on essaye plein de trucs, en fait, de nos clubs dits respectifs, tu vois, Paris, Marseille.
Vous êtes deux, trois leaders comme ça, toi, t'es président d'une asso, vous vous réunissez entre présidents d'asso?
Non, pas tellement, en fait.
Ou alors, c'est Clément Dantil qui décide de tout.
Vous êtes pas potes avec les irrésistibles?
si, on est potes avec les irrésistibles. L'idée de notre association, c'est vraiment de les soutenir et de les aider dans l'animation des tribunes. Donc, ça fait un petit moment qu'on existe.
Rien que le nom irrésistible.
On va s'appeler les affranchis maintenant, bientôt.
C'est mieux déjà.
Non, mais après, voilà. Bon. En fait, le problème, c'est qu'on se voit aussi, tu vois, par exemple, 10 matchs par an, en fait. Donc, on se voit 10 fois par an. Nous, toute l'année, on est.
Faut mettre en place des trucs. Hein.
Le problème, moi, je vais te dire d'où il vient, mais il faut que, en gros, la Fédé, ils nous disent, c'est ça, ça, ça et ça. Tu vois?
Il faudrait que la Fédé prenne un peu les choses en main.
Exactement.
Alors là, vous n'êtes pas rendu, les gars.
Qui est comme une sorte de référent supporter, comme dans les clubs, par exemple. Ouais, qui fédère, ou qui vous réunit.
Peut-être qu'il faut qu'il y ait un référent au-dessus de toutes les assos, qui dit toutes les assos, on se réunit, on fait ça, on lance les chants. Est-ce que vous avez des idées pendant les moments où on n'a pas de match d'équipe de France, tu vois?
Vous regrettez l'absence des fameuses cases à bleu, là, qui sont pas là cette année?
C'est préjudiciable. C'est bien. C'est préjudiciable.
C'est vraiment super sympa de se trouver avant, partir au stade tous ensemble.
Du coup, il y avait un cortège organisé depuis un Irish pub situé juste au-dessus de la chambre de Daniel.
Exactement.
Juste,
il paraît que c'est au-dessus de notre chambre. On est au Best Western, si je peux le dire, bien sûr.
Oui, tu peux le dire.
C'est trois étages au-dessus.
Ils sont partis de là, ils étaient.
Ah, au 14e, là. Ah, oui, oh là.
À côté du resto chinois.
Bien vu, t'inquiète, je connais.
Oui, t'inquiète, on connaît.
Vous connaissez.
Mais moi, j'ai une question.
Il y a deux jours, c'est fini en baston devant et tout, là. Espagnols, Mexicains, ils sont mis sur la gueule, limite, devant ma chambre.
J'ai une question. Les supporters français, je vous ai pas vu avec du matos. Parce que j'ai l'impression que les supporters que j'ai croisés qui ont fait du bruit, que ce soit au Soukouakif ou dans les stades, ils avaient des gros tambourins ou je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ils font du bruit. Vous, vous en avez pas ramené? Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites pas? Vous utilisez pas ça?
On avait, donc les irrésistibles, on avait un tambour autorisé parce qu'on est obligé de.
Il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Parce qu'hier, les Sénégalais ont eu un problème. C'est que pour le premier match, ils avaient pu le rentrer. Ils avaient déclaré. Hier, ils ont oublié de déclarer. Ils ont pas pu le rentrer.
Mais déclarer à qui?
À chaque match.
Bah, il faut demander autorisation.
Il faut demander autorisation. On voit à la Fédé avant la compétition.
C'est la fédération qui dit attention, nos supporters vont venir avec tel matos.
Banderole de plus de 2 mètres, t'es obligé de les déclarer.
Oh, d'accord.
Tu envoies tout à la Fédé. En fait, les IF avaient envoyé ça. Ils avaient un tambour, mais ils l'ont laissé à Paris. Donc, moi, nous, avec quelques personnes, on a été acheter dans un magasin de musique dans le souk un petit tambour, tu vois, où on tapait, je sais pas si tu nous as vu hier.
Oui, oui.
Et les IF.
On
l'a acheté ici. Et les IF ce matin.
C'est quoi les IF?
Les irrésistibles français.
Ah d'accord.
Les irrésistibles. On dit comme ça. Irrésistibles français, les IF. Mmh. Ouais. Du coup, nous, enfin, les IF ce matin ont acheté un gros truc. Donc, ils l'avaient ce soir au stade et ça nous a permis de faire plus de bruit. En étant intérieur, ça faisait vraiment ce soir plus de bruit.
Alors, on a eu un témoignage il y a quelques jours ici même de supporters qui nous racontaient qu'ils constataient qu'il y avait eu de la revente de billets parmi les supporters français.
Ça existe depuis la nuit des temps et je pense qu'on peut faire un.
Donc, il y a des mecs.
C'est trop compliqué.
Il y a des mecs qui ont des billets pour l'équipe de France, qui sont supporters français, qui viennent au Qatar revendre leurs billets.
Dans ta phrase, il y a tout qui est juste sauf c'est des supporters français. En fait, c'est pas supporter français parce que de fait, tout le monde peut acheter des billets supporter français.
D'accord, donc c'est des gars qui profitent du fait de pouvoir les acheter pour venir faire du marché.
Ouais, et puis dans les supporters français, t'as des mecs qui sont. Enfin, le supporter français, ça le français, hein, il s'inscrit au club des supporters sur la Fédé, comme toi et moi, il s'inscrit, il achète ses places, il s'en fout du foot, il revend les billets trois fois le prix. Et on se retrouve avec des mecs, nous on est tout en bas, on lance les champs, tu regardes en haut. Au cinquième rang, le mec, Allemagne, Brésil.
C'est Jimmy, ça arrive dans tous les clubs, hein, les gars.
Oui, c'est des
supporters aussi qui revendent leur place pour faire un bénéfice. Hein,
Après, je suis pas sûr qu'au Vélodrome, tu vois un supporter lyonnais. Je pense pas qu'il fasse longtemps, tu vois, il fasse long feu. Mais bon, après les événements comme ça, c'est compliqué.
Pour finir, est-ce que on sait que les clubs il y a des clubs amis, des clubs ennemis. Parmi les Français, vous avez, il y a une nation que vous pouvez pas blairer ou alors certains que vous aimez bien. Parce que là, c'est des relations entre supporters. Par exemple, depuis 2018, les Argentins, c'est peut-être un peu chaud quand même, non?
À la sortie du match, c'était chaud.
Ouais, à Kazan, j'y étais, Franzine. Pavard, c'est devant nous la frappe.
Dans le COP, il y avait quelques Argentins qui étaient un peu énervés à la fin du match.
Ouais.
C'était un peu chaud. France-Belgique, je me souviens, j'étais aussi à Saint-Pétersbourg à la sortie. Il y avait deux Belges un peu éméchés qui voulaient un peu se bastonner, mais bon, c'est vite réglé. Enfin, voilà, on a vu, on est parti et voilà. Belgique et Argentine, je dirais que c'est les deux nations, on aime bien taquiner, mais gentiment. Ouais. Et honnêtement, moi, j'ai hâte de retrouver l'Argentine en huitième de finale.
C'est notre grand plaisir.
Après, les retaper, j'ai hâte, franchement, qu'on les retaper.
Bon, dans quelques instants, on est de retour.
Si
on
va gagne parler... le deuxième match, tu les croiseras pas. Hein. Tu vas faire Arabie Saoudite ou Mexique. Hein.
Pologne.
Ouais.
Qui est dernier.
Ouais.
Je précise que c'est Nicolas qui a gagné le maillot de l'Argentine ce soir.
Quoi qu'il en soit, c'est un huitième de finale, c'est du beurre hein, pour la France.
Bougez pas.
On prend.
Maillot sur RMC avec Foot Corner. Jusqu'à 70% de réduction sur les plus grandes marques de sport, c'est la Black Week. Jusqu'au 28 novembre sur footcorner.com.
On conclut notre évaluation de l'équipe de France dans quelques instants et puis ensuite on ira en Argentine, on parlera de la Tunisie jusqu'à minuit et ensuite jusqu'à 1h du matin. Nico Villas, Thibaut Jean-Grand pour la Libre Antenne. À tout de suite.
RMC After Foot Intégrale Coupe du Monde
Gilbert Brivois,
Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, Oussem Loussaïef, on a Yves Godard avec nous ce soir qui bosse dans le restaurant Ducasse ici au Qatar et puis Jocelyn et Olivier, supporters de l'équipe de France avec nous également. Kevin, pour conclure sur l'équipe de France, tu voulais parler leadership, explique-nous pourquoi.
Ouais, parce que je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration d'Hugo Lloris juste après le match, lorsqu'on lui a dit alors qu'il y a Mbappé, il marque encore deux buts, etc. Et Hugo Lloris a tout de suite répondu oui, bah c'est bien, c'est vrai qu'il a été décisif, mais moi je veux insister sur l'équipe et je suis complètement d'accord avec lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, peu importe qui a marqué les buts, au final, ça a été l'équipe de France qui a été vraiment excellente et qu'il faut mettre en avant. Et pour moi, le meilleur joueur sur le terrain, ça a plus été Antoine Griezmann d'ailleurs que que Kylian Mbappé.
On l'a dit avant que tu arrives tout à l'heure.
C'est vrai. Ok, bah, j'ai pas entendu.
Il a été élu homme du match d'ailleurs, Griezmann.
C'est très bien.
Griezmann a été élu homme du match.
C'est très bien parce que
depuis. Ah non, c'est Mbappé.
Ça m'étonnait. Parce que ça, c'est. À chaque fois, ils font le coup tout le temps. Un mec qui met deux buts, il est forcément homme du match.
Mais c'est notre homme du match.
Depuis le début de la compétition.
C'est quand même beaucoup plus crédible que la FIFA, quand même, nous.
Bien évidemment. Depuis le début de la compétition, c'est vraiment.
Ah, ça que la FIFA, c'est certain.
J'allais dire que depuis le début de la compétition, c'est vraiment un trophée footix parce qu'il est à chaque fois remis au joueur le plus connu ou celui qui a le plus de followers sur Instagram, mais en tout cas rarement au vrai meilleur joueur du match, le MVP comme j'allais l'appeler, Daniel. Mais c'est vrai que Hugo Lloris, il dit ensuite, c'est vrai que Kylian Mbappé est décisif, c'est aussi une forme de leadership. Il veut dire que c'est pas un leader dans le vestiaire. Il veut dire que c'est un leader dans la statistique, oui, et dans le fait d'être décisif. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment intéressante parce que je suis complètement d'accord avec lui. Et c'est important parce que cette équipe, si elle va loin dans cette compétition, ce sera clairement le collectif, évidemment, ouais, sublimé par les individualités, mais d'abord le collectif.
Les gars, vous qui avez suivi le match, vous y étiez. Yves, tu y étais, toi ?
Non, moi j'ai regardé, j'ai suivi.
Quel est le joueur qui t'a plu, sauté aux yeux ?
Alors moi, celui qui m'a vraiment sauté aux yeux, bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais j'ai beaucoup aimé Dembélé, parce qu'en fait, il y a une vraie différence entre le Dembélé qu'on a connu avant et le Dembélé qu'on voit maintenant. Moi, je me frottais presque les yeux à le voir au poteau de corner défendre. Avec Jules Koundé. Donc non, moi si j'en ai un que je mettrais en avant, c'est vraiment Dembélé.
Et vous les gars, tous les deux ?
Ouais, moi je t'avoue de là où je suis,
le
temps que je passe à regarder le match, je vais pas te donner un avis que faut que je regarde le match. Je vais dire Mbappé parce qu'il a mis deux buts, mais
ouais, moi j'ai pas de. Qu'est-ce que tu fais pendant le match ?
Franchement, moi je regarde une bonne partie les supporters et je clappe quoi.
on est là pour
pour lancer des chants, il est là et tout.
Mais bien sûr, c'est pas la Coupe de la Ligue, hein, c'est la Coupe du Monde.
Bien sûr. Moi donc ça te dit n'importe quoi, franchement.
Bravo pour ton honnêteté, Jocelyn.
En première mi-temps, Dembélé, vraiment très très bon. On sent qu'il a vraiment mûri depuis la Russie. J'ai beaucoup aimé aussi Griezmann. J'ai bien aimé, vraiment.
Bon, on en a parlé longuement tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de Koundé, les gars ? On a ce qui a remplacé Pavard. Bon, bah, on peut pas dire non plus que ça.
Il va s'installer.
Je pense que c'est lui qui va.
Il vient pas revenir en arrière.
Discrètement, sereinement, tranquillement.
Exactement, il va pas revenir en arrière maintenant. À partir du moment où tu le sors, parce que en gros le message c'était t'as pas été bon, donc t'es puni, tu sors. Koundé sur un match où tu livres une prestation aboutie, personne se déchire, le collectif est très bon. Bah Koundé est installé, c'est fait.
Mais Daniel, est-ce que je suis le seul à le trouver un peu, je vais pas dire maladroit techniquement, mais pas à l'aise techniquement,
je peux être d'accord avec toi.
J'ai vraiment l'impression que c'est pas le même joueur que je voyais à Séville prendre le ballon, avancer.
Oui, mais Kevin, c'est pour ça.
J'ai vraiment l'impression qu'il est emprunté.
C'est pas le manque de justesse du manque de confiance notamment.
Je sais pas s'il manque de confiance.
Ouais,
mais
premier match en Coupe du Monde, tout ça, titulaire.
Non, mais c'est pas la première fois que je le trouve comme ça en équipe de France, surtout quand il joue latéral droit. Mais
Tchouaméni, on n'a pas parlé de Tchouaméni là, parce que pendant le match, devant la télé, on se disait quand même Tchouaméni, on aurait bien qui pèse un peu plus, qui pèse comme Rabiot, parce que Daniel d'ailleurs a jamais aussi dit tyrambique sur Rabiot que depuis le début de la Coupe du Monde.
Juste quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut. Rabiot, c'est un mec qui est à la Juve et on l'a vu deux fois contre le PSG en Ligue des Champions. Excuse-moi, il m'a pas éclaboussé les yeux. Il est toujours au même rythme. Bref, il a pas réellement changé. Il joue dans une équipe qui marche pas très fort, qui produit zéro jeu. C'était normal de pas être dans une attente folle autour de ce joueur. Il joue, il fait deux matchs, il est bon dans les deux matchs. Il est peut-être pas encore constant les deux fois 90 minutes, mais très honnêtement, j'ai pas envie de le critiquer.
Il
met encore une tête où il manque d'ouvrir le score parce que ça, il est encore présent et il y va avec la rage. Il met un bon coup de tête. Tout ce qu'il fait est bon, il récupère beaucoup, il compense énormément. Lui et Tchouaméni est le plus discret des deux, clairement. Rabiot a fait une première demi-heure encore où il était vraiment épatant. Après, il s'est peut-être un petit peu calmé. Mais non, là, il est bon, il faut le dire, c'est tout. Moi, je vais pas.
Et Tchouaméni, Kevin ?
Moi, je fais pas de fixette. Hein. Quand les mecs sont bons, ils sont bons. Hein.
Ouais.
Mais il a plus. Voilà.
Tchouaméni, il est dans un rôle, un peu d'équilibriste dans le sens où il est là.
C'est un peu obscur.
Il est là pour travailler, pour compenser. C'est vraiment celui qui remplace un peu N'Golo N'Golo Kanté, dans le sens où voilà, quand Pogba sortait, bah, N'Golo Kanté était là pour stabiliser le milieu de terrain. Là, Rabiot, c'est plus celui qui se projette vers l'avant. Il dégage, c'est vrai, beaucoup de puissance, hein, Rabiot, quand même.
Mais Kevin, j'ai toujours trouvé
que c'était un joueur qui avait énormément de qualité. Ouais. Mais là, c'est Walid qui avait fait un avis avant la Coupe du Monde, disant que il avait dit Adrien, c'est ton moment. Et je pense que Adrien l'a entendu parce qu'il est en train de saisir le moment.
Mais Kevin, et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Kanté, on en a parlé, et Dieu sait s'il a été très fort en 2018. Mais Sip Kanté est probablement l'un des meilleurs joueurs de 2018. C'est bien la preuve que l'équipe de France jouait mal. C'était un joueur défensif qu'on voyait le plus parce qu'il grattait les ballons, il relançait, il grattait, il relançait. Aujourd'hui, si le 6 est le mec qu'on voit le moins, ben moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Oui, mais tu vois,
c'est la preuve de la mutation du jeu de l'équipe de France. Et alors, regarde depuis le début. Les joueurs qu'on a mis le plus en avant, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Giroud sur le premier match. On parle de ces joueurs-là, en équipe de France, si tu prends les 10 dernières années, à chaque fois que tu parlais de joueurs, tu vas dire, ah, Lloris, il a fait un bon match. Et la charnière sans, en 2018, Varane Umtiti. Tu mettais tout le temps Varane Umtiti en avant. Et Kanté, un peu Pogba aussi, évidemment. Mais bon, on parlait peu des mecs. Giroud avait pas marqué. Bon, Mbappé, évidemment, c'était le gars qui faisait les accélérations et tout. Mais, bon.
Moi, je vais être un peu moins dithyrambique à l'égard d'Aurélien Tchouaméni que vous deux.
Dithyrambique, je dis que c'est bien qu'on le voit. Je comprends qu'on en parle pas.
Je comprends très bien le rôle d'équilibriste et, comme dit Kevin, qu'on lui a accordé. Et c'est lui qui doit gérer l'équilibre et la gestion du milieu de terrain. Mais je trouve qu'il n'est pas au niveau des autres. Et ça s'est réellement vu lorsque l'équipe de France était dans un temps faible début de deuxième période. Quand Rabiot et Griezmann ont baissé d'un rythme sûrement dû à la fatigue, et ben c'est là où on a pris l'eau au milieu de terrain. Parce que Aurélien Tchouaméni, malheureusement, n'était pas là pour relever les autres, alors que c'est son rôle, oui, puisqu'il a le rôle d'équilibre au milieu de terrain.
C'est vrai qu'il y a quand même, on l'a pas dit, mais il y a quand même eu un quart d'heure, 20 minutes.
Ah oui, on a pris l'eau au milieu de terrain.
On a le droit,
il y a un adversaire en face.
Oui, c'est pour ça. Bien sûr que tu as le droit.
Il a le droit d'être bon.
Tu as le droit, mais le rôle d'un mec comme N'Golo Kanté, à ce moment-là, c'est là où tu dois assurer.
Les gars,
puisque tu as le rôle d'équilibre.
Moi, vraiment, j'insiste là-dessus depuis plusieurs jours. Moi, quand je juge Aurélien Tchouaméni avec le joueur qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas un des meilleurs, c'est pas un top 20, même un top 25 mondial, Tchouaméni.
Donc,
il y a un moment, tu le juges avec ses qualités.
Parce que moi, j'ai entendu qu'il devait prendre la place de Pogba, qu'il pouvait le faire et tout.
Il lui manque encore du temps.
Mais là, je parle pas de Pogba. On n'est pas sûr qu'il revienne.
Moi, je parle pas de Pogba, là, je parle de Kanté. Tu vois, parce que pour moi, celui qui remplace Pogba aujourd'hui, c'est plus Adrien Rabiot qui fait ce lien avec les attaquants. N'Golo Kanté, même s'il est capable de le faire et qu'il l'a fait, mais c'est quand même un gars qui est là pour gratter les ballons. Tu vois. Donc, que Tchouaméni soit dans son rôle, qu'il n'ait pas le niveau de Kanté ou de Casemiro au Real, ça me pose pas de problème. Le mec, il est encore tout jeune, il arrive au très haut niveau. Il est en train, mais je suis complètement d'accord avec Daniel. Moi, de voir, et c'était aussi notre auditeur supporter qui disait ça, moi de voir Ousmane Dembélé aussi bon dans la première mi-temps, parler d'Ousmane Dembélé, parler d'Antoine Griezmann, même s'il a un cran plus bas, il se projette quand même vers l'avant. Parler de Théo Hernandez qui remplace son frère, très bien, mais qui est offensif.
Exactement.
Moi, ça me va très bien.
Tout ça est très bon signe.
Ça me va très bien.
Et d'ailleurs, je pensais à un truc là. Je pensais à un truc là très important. On est bien d'accord, tous d'accord maintenant. Antoine Griezmann est milieu de terrain désormais.
On est d'accord.
Oui. Tu dis désormais.
Non, ça, c'est juste parce que ça fait un de plus en
même. Alors, vous avez bien compris le message d'Olivier et Jocelyn. Si vous avez des idées de champ pour l'équipe de France. Vous envoyez les propositions.
On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça fait un de plus sur ma liste.
J'ai une proposition à vous faire avant de partir.
Allez.
Un petit. Mais ils sont où les Italiens?
Allez, avec grand plaisir.
Un petit mais ils sont où les Algériens? Ça passe aussi. C'est pour Walid, hein, c'est pour Walid Achirchour.
Et tu pourras bientôt faire.
Le cop de l'équipe de France qui me fait un magnifique mais ils sont où les Italiens, mais ils sont où les Algériens. Ça, c'est du bon chambrage comme j'aime.
Ça serait beau. Si tu veux pas attendre quand même, ils sont pas encore champions du monde, les Français. Je sais que c'est fait.
Oui, mais déjà, ils sont là, excuse-moi.
Dès que tu parles de l'Italie,
t'es gentil.
Non, parce qu'il y a encore une équipe qui est championne d'Europe et il faut pas trop manquer de respect.
Oui, ils sont toujours pas là quand même.
Ils sont où?
Mais ils sont. Il va péter les plombs, Daniel.
Non, pas du tout.
Merci d'être venu, les gars, en tout cas.
Merci à vous.
Et à très vite. Yves, merci également. Donc, bonne continuation ici au.
Comment s'appelle merci ton resto où on doit aller,
c'est
ça?
C'est G1. Voilà,
on ira bien
sûr. On va voir si on a le temps.
On a le temps.
Avec plaisir.
Ouais.
Quatrième étage.
On est là jusqu'au 18 décembre, donc il y a le temps. Hein.
Venez, on vous attend.
Allez, avec plaisir.
Dans quelques instants, Georges Quirino.
Dans le musée national.
En direct de Buenos Aires.
Dans le musée national.
Et puis, on ira également prendre des nouvelles de la Tunisie.
Aïe.
On ira pas loin parce qu'on ira voir Oussem Moussaïef qui est à 30 cm de moi. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde.
Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Daniel Riolo là, Kevin Diaz est là, Oussem Loussaïef est là. On a parlé longuement de l'équipe de France. Il nous reste avant minuit un gros quart d'heure pour parler de l'Argentine et de la Tunisie. Argentine avec Georges Quirino Chavez qui est soulagé à Buenos Aires. Ça fait 14
heures. Il respire, il était en apnée.
Bon, Georges, bonsoir.
Dios mio. Salut à tous.
Salut Georges.
Raconte, t'as suivi le match où toi, t'es allé où à Buenos Aires?
Ouais, j'étais à l'écran géant qui a été installé dans le centre-ville, dans le quartier de Pau, une grande place. Il y avait des milliers de personnes, soleil, 30 degrés, c'est l'été ici, chaleur totale, stress total chez tous les Argentins, anxiété, tout le monde s'est vu dehors après.
T'as tombé de la quilmesse, hein?
Non, parce qu'il n'y avait pas d'alcool dans cette fan zone. Tant mieux, ouais. Je pense, hein, parce que vu la chaleur qu'il y avait, ça aurait été une galère sinon. Mais tout le monde, tous les supporters argentins qui faisaient une gueule pas possible après la première mi-temps, je pense que la plupart se sont vus dehors, comme peut-être même certains joueurs et comme le staff de l'Argentine. Et puis le but de Messi, les gars, c'est franchement niveau but de Pavard pour la France face à l'Argentine. L'émotion qui a été vécue ici, franchement, c'était un but de huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale de Coupe du Monde. Et les gens qui pleuraient sur ce but parce que ça a libéré toute une tension accumulée depuis le premier match. Plus personne ne croyait tout simplement à ce but.
Alors,
de Messi,
genre,
le but d'Enzo Fernandez.
Je veux pas casser l'ambiance. Franchement, c'est pas fameux quand même. Hein.
Non, mais c'est pas fameux quand même. Mais je te dis juste que ce soir, c'est l'émotion. Ils sont contents d'être vivants. Il y a même des gens qui fêtent ça à l'Obélisque. Vous savez, c'est l'équivalent des Champs-Élysées ici sur l'avenue.
Oui, carrément. Ah oui.
Pour vous dire à quel point ils estiment que on est dans quelque chose peut-être un peu de miraculeux, justement, et que quelque chose peut démarrer à partir de maintenant. Alors après, il faut voir maintenant.
Georges, est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que après ce but, que moi je l'ai vécu comme ça, moi j'ai adoré ce match, même si c'était une purge.
Pourtant, c'est pas le meilleur de la Coupe du Monde.
Ouais, mais il y avait des lésimes, il y avait de la tension, tu voyais le regard des joueurs, des supporters argentins, même des Mexicains, tu voyais que là, c'était un tournant dans la Coupe du Monde, c'était un tournant presque aussi dans la fin de carrière de Messi, même si il y en aura un autre avec le match de la Pologne. Et juste après le but, sur les appuis, et les premières courses vers l'avant, les premiers pressings des Argentins, j'ai senti qu'ils avaient eu un boost. Tu vois, c'est comme si, tu vois, l'exercice où tu cours avec un parachute là ou avec un élastique.
Sûr, ouais.
Et puis là, on a lâché l'élastique et là, allez les gars, on y va, c'est bon.
Non, mais il y avait une nervosité.
Tu veux dire un peu comme une voiture à friction?
Exactement. Ouais, voilà, exactement.
Non, mais il y avait une nervosité de dingue. Je sais pas si vous avez vu l'image, elle est incroyable, de Pablo Aimar, l'ancien grand joueur, idole de Messi d'ailleurs, qui est l'adjoint de Scaloni. Aimar sur le but de Messi, il s'assoit sur le banc et il retire ses larmes. Et t'as l'impression que le mec est au bord d'avoir un infarctus. Et je pense qu'en fait, c'est l'image de toute l'Argentine. Vraiment, Messi, il y a quelques instants, est passé devant la presse. Il a dit avec ce but-là, c'est un peu ce que t'as dit. Kevin, avec ce but, on a recommencé à être l'équipe que nous sommes. En tout cas, c'est comme ça que l'ont senti que les joueurs l'ont senti. Moi, vraiment, ce que je sens surtout, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est qu'il y a un homme qui a tout changé dans ce match-là. C'est Enzo Fernandez,
merci.
21 ans,
exactement,
entré à l'heure de jeu.
Et il va être titulaire maintenant, Georges.
Alors là, tout le monde demande à ce que ce garçon-là ne sorte plus du 11 titulaire. Il a pris la place de Guido Rodriguez. L'équipe, on a l'impression qu'elle a avancé de 20 mètres de plus,
exactement,
sur le terrain. Il a pris tous les risques. Il a récupéré les ballons. Il a donné la tête à toute l'équipe. Et un but de dingue pour un joueur n'a jamais joué 90 minutes avec l'Albiceleste. Sa quatrième sélection seulement. C'était déjà un crack avec River Plate. Il a été formé par Gallardo, parti à Benfica. Depuis qu'il est à Benfica, il fait le bonheur des Portugais.
Il joue à quel poste, lui? Il est un.
C'est pour Jimmy la question.
Non, mais lui, il était déjà sur ma liste.
T'as vu, Daniel. mais tu sais, Georges, que pendant le match, je disais à Gilbert, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour faire rentrer Alvarez et Enzo Fernandez?
Ils sont rentrés en même temps.
Et ils sont rentrés en même temps, et franchement.
Attends, toi, tu le vois souvent jouer, Kevin, en plus. Tu sais quand même qu'il est bon.
Déjà, je le connaissais avant, pour te dire la vérité.
Oui, mais toi, tu le vois là maintenant.
Mais là, ce qu'il fait dans une équipe de Benfica qui, on l'a vu, est exceptionnel cette saison. Mais franchement, le but qu'il met, parce qu'il faut le faire, le passement de jambe, Lucarno, enroulé Lucarno opposé pour libérer tout un pays, franchement, c'est vraiment un joueur sur qui il va vraiment falloir compter.
Même la frappe de Messi, on banalise
un
peu.
Est-ce que tu sais combien, quand ils vont le chercher à River, Benfica, combien ils mettent pour l'avoir?
Pourquoi il va à Benfica? Je me suis posé cette question.
Mais c'est, c'est ça que je veux savoir.
Je crois qu'ils mettent pas beaucoup, hein. Mais après, il y a des droits, peut-être. Ouais, ils mettent 15 millions, c'est ça exactement.
15 millions.
Et genre, je sais pourquoi. Ils ont tous les droits, je sais pas si après là-bas.
Genre, je sais pourquoi il va à Benfica. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi pas un club plus épais?
C'est une étape très intéressante. C'est une porte d'entrée. Di Maria avait fait ce choix-là. Beaucoup d'Argentins, beaucoup de Brésiliens.
David Luiz et tout, les Brésiliens font ça.
Beaucoup de joueurs sud-américains font cette étape-là parce que ça reste un pays quand même assez latin.
12 millions.
Mais
il venait du club de magnifique
de River.
Défense et justice. Présidé par Éric Dupond-Moretti en Argentine. Défense et justice.
C'est vrai, tu vois, l'étape Portugal, elle est toujours importante. Il vient en bateau, le premier pays qui vous arrive, c'est Portugal. Tu vois, on va s'arrêter là.
Ah, c'est le plus proche.
C'est vrai.
C'est logique. C'est un garçon qui a été observé par le Real aussi, qui a été observé par la Juve également. Et c'est lui qui a fait le choix d'aller au Benfica, justement. C'est un garçon très intelligent.
Si je pouvais être observé par une équipe française.
Française. Il y a un moment donné, moi, je sais que Paris l'a approché et dernièrement il y a Liverpool et Wolverhampton en première ligue l'ont approché également, donc c'est un joueur très prisé, il fait partie des pépites que tout le monde va vouloir, je pense, aller chercher.
Ah non, surtout pas, il va pas aller à Wolverhampton, il faut pas gâcher quand même.
Non, mais bon, à Liverpool, pourquoi pas. Bon, on va pas s'enflammer ce soir, mais en tout cas, ce soir, tout le monde s'enflamme et tout le monde le veut plus que jamais. Tout le monde est sûr que c'est à partir de lui, désormais, qu'une nouvelle énergie peut se créer dans cette vie céleste et pourquoi pas rêver à nouveau.
C'est pas encore fait, et notamment il y a quand même Argentine-Pologne avec Lewandowski en face.
C'est quand mercredi soir.
Exactement. Je sais pas.
C'est ça. Soir. Après la France.
Et en même temps Arabie Saoudite-Mexique, le Mexique qui a déçu. C'est pas encore fait. Imaginons que l'Argentine tenait à perdre contre la Pologne, tu peux encore trembler.
Si l'Argentine perd, c'est mort. Avec 3 points,
c'est mort.
Mais même avec 3 points, ça va être tendu.
Un match nul, ça peut passer.
Un match nul, il faut que de l'autre côté, il y ait match nul.
Si l'Arabie Saoudite ne gagne pas.
Attention, le 2-0 de l'Arabie Saoudite contre la Pologne, il est très sévère.
Mais moi, le Mexique me déçoit. Moi, je pense que Arabie Saoudite-Mexique, très franchement, la dynamique, elle est pour les Saoudiens.
Moi, je dirais match nul quand même.
Si ça fait match.
Et si les Saoudiens gagnent, ça oblige l'Argentine à gagner.
Pour être à l'abri. Et donc après, t'auras France-Arabie Saoudite. Oh, le beurre.
Mais ici, très clairement, et même quand on voit les joueurs, on a vu les joueurs dans le vestiaire là après le match chanter les musiques à la gloire de Maradona dans le ciel, qui les aide et tout ça. On sent que quelque chose s'est activé quand même. Hein. Et c'était quand même la force de cette équipe-là. C'était le mental, c'était le collectif. Est-ce que quelque chose va se débloquer? Est-ce qu'on va voir par exemple un joueur comme De Paul qui n'en apparaît toujours pas alors qu'il était clé dans cette équipe-là enfin se réveiller? Voilà, il y a quand même des choses pour croire que cette équipe est en train de se mettre en route et que le mondial, c'est un peu ce qui se dit ici en Argentine. Hein. C'est le mondial a commencé. Le mondial a commencé avec cette deuxième mi-temps et l'IA illusion, comme ils disent, l'espoir se réactive ici à Buenos Aires. C'est la folie.
Daniel, t'imagines le France-Arabie Saoudite, Hervé Renard? When you see Mbappé on the middle, on the pitch,
loin de tout take a picture.
Take a picture with him.
Ah, d'ailleurs, je remercie.
When you see Dembélé, turn the left, turn the right.
C'est extraordinaire. Sur Twitter, un tweetos qui a fait un montage de toutes les meilleures dingueries d'Hervé Renard sur le terrain. C'est extraordinaire. Donc en anglais, après ses joueurs, après les bancs adverses, notamment quand il joue contre la Côte d'Ivoire, avec Spinozzi, l'ancien entraîneur de gardien de l'OM. Ah. Et il le regarde, il dit: oh Spinozzi, t'es pas en double ici, hein? Comme ça, il te gueule des trucs comme ça, c'est franchement. On va faire un petit montage, on va vous le faire écouter.
Il est fort, Hervé Renard.
Je pense demain ou après-demain.
Mais tu sais que c'est en train de devenir une star, Hervé Renard. Parce que même aux Pays-Bas, on en parle.
Même ici.
Franchement, c'est complètement fou.
Si vous voulez aller voir, c'est le compte @BidulMourinho qui a fait ça. C'est extraordinaire.
When you see Dembélé.
Par contre, il perpétue la mauvaise tradition des Français qui ont un accent à couper au couteau en anglais, quoi.
Ouais, mais il vaut mieux avoir cet accent.
Il a appris ça. Apprends l'anglais avec Hervé Renard. Look at the ball.
Voilà. Brian is in the kitchen.
Non, sa plus belle phrase, c'est quoi? We are in our bubble.
In our bubble. Mais le mieux, c'est l'interprète quand même. Hein. Ouais. Et qui s'énerve avec la même intensité.
Non, exactement. Ah ouais, c'est normal.
C'est lui la star.
Merci Georges. Bonne soirée.
Merci
pour dormir.
Estamos vivos. On est vivants ici.
Salut Georges. Alors il y en a un qui est encore vivant aussi, mais attention, il faut quand même se méfier. C'est Hamza Rahmani qui est là. Hamza qui suit les équipes algériennes. Salut Hamza.
Salut.
Salut Gilbert. Alors, il n'y a pas d'équipe algérienne à la Coupe du Monde, il y a des équipes africaines, mon cher Gilbert.
J'ai dit algérienne ?
T'as vu ça ?
T'as vu ce que je pensais au champ ? Je pensais au champ que j'ai suggéré aux Français, là.
Oh, l'obsession.
Qu'est-ce que t'en penses, Hamza ? Un petit chant, mais ils sont où, les Algériens ?
Pour une fois, c'est pas moi qui t'ai fait chier. Hein.
Ouais, je vois ça, je te remercie, Daniel. Non, mais...
moi, j'ai arrêté.
Hein,
moi,
je sais,
maintenant, moi, j'arrête de chambrer, c'est terminé, je laisse tout le monde
tranquille. C'est douloureux.
Bon, les Tunisiens, là, c'est mort. Hein. Enfin, c'est encore possible mathématiquement, je veux dire.
C'est pas mort, j'ai écouté Naïm Sléty en zone mix, il a dit qu'il y croyait, donc on va y croire.
Non, très sérieusement, qui va faire tourner quand même.
Très sérieusement, moi, j'ai été très déçu. Très déçu parce que tu sors d'un bon match contre le Danemark, bon match bien évidemment avec tes armes à toi, t'essaies de proposer un peu plus que défendre pendant tout le match, t'arrives normalement confiant face à l'Australie, on te présente un peu comme le favori de ce match-là, et tu restes dans ta moitié terrain, tu mets la grinta avant de penser au jeu, j'ai vu des séquences de jeu où on allait au duel alors que le ballon n'était même pas dans la zone, mais je me suis dit mais où on est ? Et je pense à cette phrase, le football, il y a des fondamentaux, ça se joue avec un ballon. Donc d'abord pense à jouer au football, puis après mets de l'énergie et tout ce que tu veux. Je trouve qu'ils sont passés à côté de leur match, ils ont fait 15 bonnes dernières minutes, mais c'est trop tard. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais je m'en doutais même avant la compétition. La Tunisie, à partir du moment où c'est eux qui doivent prendre le lead sur le match, c'est eux qui doivent gérer la physionomie du match et le tempo, ils savent pas faire malheureusement. Malheureusement, il y avait des choix qui ont été faits comme Naïm Sliti qui était censé rapporter un peu plus de maîtrise dans le jeu offensivement. Ça n'a pas été le cas, ils ont pas été au niveau. C'est triste à dire, et je suis triste de le dire, mais les joueurs ne sont pas tout simplement pas au niveau international.
Hamza, t'es d'accord ?
C'est la vérité.
Bon, on retrouve la Tunisie, c'est vrai que je rejoins Oussem, il y a des regrets, une frustration quand même assez importante de ne pas voir la Tunisie confirmer son match, ou au moins ses intentions que je qualifierais de positives face au Danemark. Là, on a vraiment retrouvé la Tunisie que l'on voit habituellement, qui concède peu d'occasions. Mais alors, parce que le but australien, on va quand même le dire, il y a un mélange de réussite sur le centre qui est contré, et puis derrière la tête, elle est exceptionnelle de Duke. Mais offensivement, c'est bien trop peu. Est-ce un problème de qualité individuelle ? Sincèrement, je le pense pas. Est-ce un problème d'animation ? On avait déjà eu les mêmes problèmes à l'époque quand le sélectionneur était Mandel Beir à la Coupe d'Afrique. Je pense au match face au Mali à la CAN. Je pense même à la double confrontation face au Mali en barrage de Coupe du Monde. Et on arrive au scénario dont je te parlais il y a quelques jours, Daniel. C'est pas le résultat espéré, évidemment, pour les Tunisiens. Mais avec une Australie deuxième et qui a une différence de but de moins 6 par rapport à la France, la France, on peut l'imaginer, va faire tourner, peut mettre une équipe B. Est-ce que l'équipe B de la France, ça reste jouable pour la Tunisie ? Je suis pas sûr, à titre personnel, mais dans un contexte particulier, avec un stade.
Il faut le jouer.
Qui sera
joué,
bien sûr. Et le stade.
Il faut le jouer à fond. Après moi, Hamza, je pense sincèrement qu'il y a
un émotionnel à gérer.
Moi, je pense que vraiment, il y a un problème de niveau individuel, Hamza. Tu peux pas faire deux matchs dans cette compétition, avoir plus de 25 tirs dans cette compétition et marquer zéro but. C'est pas possible. T'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible. À un moment donné, c'est que t'as une défaillance au niveau offensif. Et ça, va falloir ça. Après, on fera les comptes à la fin de la compétition. Il reste encore un match, il faut le jouer à fond. Mais moi, j'étais très, très déçu par ce qui a été proposé. Très déçu.
Hamza, demain, il y a Maroc-Belgique.
De Jaziri aussi. Hein. À la pointe de l'attaque, on le voit toujours. Exactement. Pas, Jaziri, alors qu'il y a encore quelques semaines, c'était le numéro 1 et le titulaire à la pointe de l'attaque.
Exactement.
Un mot du Maroc qui joue contre la Belgique demain. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire un coup ou t'es moyennement optimiste ?
Ils peuvent faire un coup parce que la Belgique m'a clairement inquiété face au Canada. Donc il y a la possibilité pour les Marocains d'aller faire un résultat positif, même aller chercher un match nul, pourquoi pas. Mais le Maroc, je pense, a aujourd'hui, c'est triste à dire parce que c'est une équipe qui vient tout juste de changer de sélectionneur, mais a déjà en termes de qualité individuelle et aussi dans l'aspect collectif, peut-être un peu plus de certitude que les Tunisiens. Encore une fois, la Belgique est très inquiétante. Le Maroc peut très clairement aller chercher un résultat positif face à
bon,
la Belgique.
Bon, il faut que Ziyech se réveille quand même par rapport au premier match.
Ouais, effectivement, faut qu'il se réveille. Bon, ça, après, vous connaissez, je pense, mon avis sur Hakim Ziyech, mais effectivement.
On a dit ça la dernière fois, Hamza, l'autre jour, tous les deux, on s'est fait allumer, je te signale, par tous les Marocains.
Je dis, ouais, il faut prendre un foot, ces deux-là. Je peux comprendre, parce que Ziyech, c'est le côté, un footballeur marocain évolue dans un grand club. Mais aujourd'hui, à Chelsea, c'est un figurant. On va pas se mentir, c'est une seule titularisation cette saison à Chelsea. Et ça reste un joueur qui, en sélection, il a pas de référence. On peut me sortir les stats, c'est 18 buts en plus de 40 sélections. Mais en sélection, c'est un joueur qui n'a jamais performé lors des grands matchs. Son seul fait d'arme, c'est un pénalty raté à la dernière minute d'un huitième de finale de Coupe d'Afrique face au Bénin.
Merci Hamza, bonne nuit. Merci à tous, Oussem, Daniel. Et Thibaut Jean Grand est là pour l'after qui continue jusqu'à 1h du matin. Salut Thibaut.
Salut Gilbert, salut tout le monde. Ça va ce soir les gars?
Impeccable.
Bon, on est en direct jusqu'à.
Qu'est-ce que t'as au programme?
Bah, l'équipe de France, à mon avis, hein, un petit peu. En même temps, la libre antenne, vous le savez, c'est vous, à la maison, qui faites le programme. Le 32-7, vous nous appelez. Adrien est là au standard. On est en direct vidéo également sur Twitch. Ce soir, on vous attend. La libre antenne de l'after d'RMC en direct jusqu'à 1h. A tout de suite.
Comment vous sentez-vous? Bien? Attaque? Allez, on y va.
RMC, l'after, intégrale Coupe du Monde.
La libre antenne.